Émission On en jase, il est midi pile. C'est votre nouvelle émission du midi, de midi à 14h avec Jeff Fortin et Pascal CV. Comment ça va, Pascal CV? T'es-tu reposé en fin de semaine?
J'ai juste fait ça et été au tailgate, alors bien en selle, prête à affronter cette fin de campagne électorale municipale.
C'est ce que je croyais, je t'ai vu en grande forme au tailgate hier. Merci à tous les auditeurs qui sont venus nous voir justement au tailgate, au Rouge et Or. Cette victoire du Rouge et Or, 16-6 sur les Caramels de l'Université de Montréal. On est encore bien meilleurs que Montréal. On les a battus, on est premiers dans la ligue. Puis, ah ouais, on va y rebattre en série.
Qu'est-ce que t'en penses? J'étais surprise de cet écart-là. Ça a comme été facile. Félicitations au Rouge et Or qui a su, dans les années qui ont précédé ce match-là, reprendre un petit peu de force.
Exactement. 418-971-1021. Retenez bien ce numéro. On veut vous lire, on veut vous voir réagir parce qu'on va parler dans quelques instants de ce sondage élection municipale. Il y a moi dont ça, Bruno Marchand a pris une avance quasi insurmontable. Vous trouvez ça comment? 418-971-1021. On est également disponible sur la web radio au blvd.fm et vous pouvez aller réécouter les meilleurs moments également au blvd.fm. Justement, notre entrevue avec Bruno Marchand de jeudi dernier s'y retrouve. Puis il y a un beau débat aussi, Lambert Drainville, avec Farnell Morisset sur les cotisations syndicales qui s'y retrouvent. C'était vendredi dernier. C'était très, très, très intéressant. twitch.tv/blvd/fm et surtout l'application Boulevard disponible sur App Store, Google Play Store. Et on a également les haut-parleurs intelligents. Faut dire quoi, non, Pascal, avec les haut-parleurs intelligents, ta minute?
BLVD 102.1.
Écoutez, BLVD 102.1, puis let's go. On est parti. En studio avec nous, on a Antonine Iaccarini et Mathias Turcotte. Belle fin de semaine, les amis.
Ben oui. Mais contente que ce soit lundi et de vous retrouver.
Ah, c'est donc bien fun.
C'est partagé.
Ben oui, c'est partagé, certain. Moi, j'aime mes fins de semaine, mais j'aime tellement faire de la radio que je déteste pas
ça. Ben c'est ça.
Lundi.
Je n'haïs pas les lundis. On va dire ça comme ça, c'est bon signe.
C'est ça, exactement. Mathias Turcotte qui est allé sur le terrain rencontrer Sam Hamad qui s'en va voir Bruno Marchand dans une couple de minutes à 1h30. Comment ça va, Matt? Passez une belle fin de semaine?
Ça va très bien. Grosse fin de semaine. Beaucoup, beaucoup d'études. C'est à mi-session,
ouais,
universitaire.
C'est
bienvenue
vrai
à l'université.
Yes.
En plus, en économie, c'est sûr.
Ah, ouais. J'ai mes examens cette semaine, puis j'ai pris quand même un peu de retard dans les dernières semaines. Fait qu'on rattrape ça aux grands chevaux. Dans les derniers jours.
Excellent. Sans plus tarder, c'est le...
Le caucus. Le caucus.
102-1.
Voici Antonine Iaccarini.
Antonine Iaccarini dans le caucus. Avant de passer à cette belle sortie que Mathias a fait pour nous ce matin, je te pose la question. Est-ce que tu es surprise de voir Bruno Marchand à 40%? Dans le dernier sondage, élection municipale, sondage Segma, Le Soleil, Radio-Canada, Stéphane Lachance prend le deuxième rang à 16%, Sam Hamad est à 14%, ferme la marche Claude Villeneuve à 6%, Jackie Smith à 3% et Anne Guérette à 2%.
Non, pas surprise, parce que, bon, je vais être bien franche avec vous, la semaine passée, je regardais la semaine se dérouler, je me disais, mais quelle belle semaine pour Bruno Marchand, puis c'est pas parce que lui avait fait des annonces
non.
exceptionnelles ou quoi que ce soit, là. C'est juste parce que ce combat entre ces challengers potentiels, Stéphane Lachance et Sam Hamad, dans les espèces de sables mouvants dans lesquels ils se retrouvaient.
La chicane!
C'est sûr que ça avantageait Bruno Marchand. De là à monter jusqu'à 40%, ça, j'avoue que, mettons que j'avais sorti ma boule de cristal, puis j'avais essayé de deviner les chiffres, j'aurais peut-être pas mis à 40%. Mais il y a vraiment cette idée qui est en train de se cristalliser. Bon, tous ceux qui sont pro-Marchand déjà, plus ceux qui étaient indécis jusqu'à récemment, mais peut-être plus favorables, évidemment, aux idées de Bruno Marchand, qui peuvent ressembler aussi quand même dans jusqu'à un certain point à celles de Claude Villeneuve. Il y a quand même des idées en commun aussi avec Transition Québec, etc. Mais ça s'agglutine autour du meneur, autour de Bruno Marchand. Mais là, c'était de savoir qui allait être l'adversaire. Et là, de voir que Stéphane Lachance prend les devants, c'est pas une énorme différence de points, mais même si tu additionnes Stéphane Lachance et Sam Hamad, ben c'est pas assez pour faire le poids contre Bruno Marchand, mais il reste 17% d'indécis.
En effet. Par contre, je te ramène à une statistique. Premier sondage, 26% Bruno Marchand, 31% d'indécis. Troisième sondage, 40% Bruno Marchand, 17% d'indécis. Écoutons, 14% d'indécis se sont-ils retrouvés tout à Bruno Marchand?
Ben c'est ça. Donc, ça veut dire que les opposants à Bruno Marchand ne sont pas capables d'aller chercher autant d'indécis que Bruno Marchand. Il peut aussi avoir eu un transfert, hein, même directement, de l'équipe de Sam Hamad vers Bruno Marchand. Parce que faut quand même garder en tête qu'il n'y a pas juste le tramway dans la vie.
Non, en effet.
Donc, il y a des gens qui vont prendre une décision qui ne sera pas basée sur le tramway. C'est dur à... Des fois, il faut se le rappeler, là, parce qu'on parle tellement de manière démesurée tout le temps de ce projet-là. Mais oui, là, on a... Puis, quand ça commence, là, ça, là, cette idée-là, là, que disons, la personne qui a le plus de chances d'être l'opposant à la personne que tu ne veux pas que soit élue, bien là, il peut avoir un transfert très rapide après.
Clairement.
Ce sondage-là, aujourd'hui, c'est sûr que ceux qui veulent voter de façon stratégique, bien, ils le regardent attentivement, ce sondage-là.
Est-ce que ça va se tenir, vous pensez, petite parenthèse, est-ce que ça va se tenir, cette tendance-là, ou ça va jouer autrement à la fin de l'élection? Assurément, on n'a pas de boule de cristal, mais...
Bien, en fait, quand on regarde des sondages en campagne, on va regarder les tendances. Si on a un soubresaut, à un moment donné, on ne va pas nécessairement s'y attarder plus qu'il faut, mais la tendance, c'est que Bruno Marchand a augmenté tout le temps. Il n'est pas parti comme un grand favori en perdant tranquillement des plumes. Parce que quand tu perds tranquillement des plumes au fil de la campagne, c'est là que souvent qu'on va voir une espèce de mouvement à la fin là, où tout revire de bord. C'est ça que c'est passé en 2021.
Puis c'est un peu ce que sa maman de vie, si on en comprend le genre de messie qui arrivait, puis finalement, ça n'a pas les impacts.
C'est un bon point.
Oui, absolument. C'est ça. En fait, sa maman avait mis les attentes élevées. C'était quelqu'un qui arrivait avec une notoriété qui était plus grande. Et bien, sa campagne s'est pas bien passée. Il faut le dire objectivement. C'est pas une campagne qui s'est bien passée.
Quelques réactions des auditeurs. Pour être franc, j'aime pas Marchand et sa vision, mais jusqu'à date, on dirait que c'est le seul adulte dans la course. Donc, honnêtement, ça vient jouer. Je suis convaincu sur les pourcentages. Autre auditeur qui nous écrit, ce qui est triste et pathétique, Marchand est en avance, mais pas pour avoir bien défendu son bilan ou ses promesses électorales. Une vraie marche dans le parc, malgré la grogne qu'il a générée dans son premier mandat. Oui, puis les gens, moi, dans ce sondage-là, ce qu'on regardait, c'est 86% des gens sont fiers de vivre à Québec. Puis Stéphane Lachance et Sam Hamad ont tout fait à part nous rendre fiers dans la dernière semaine.
Oui, puis aussi leur message de campagne, c'est sûr, quand tu arrives puis tu remets en question le bilan du maire en place, bien, le niveau d'insatisfaction ou ton sentiment par rapport à ta ville, ça va avoir un gros impact. Il y en a des gens qui sont fâchés. Puis d'ailleurs, c'est ce qui avantage aussi Stéphane Lachance face à un Sam Hamad. C'est que les fans de Stéphane Lachance, ils vont pas le lâcher avec ce qui s'est passé la semaine passée. Mais ceux qui se demandaient, qui magasinaient, qui regardaient Sam Hamad, qui disaient est-ce que ça ferait un meilleur maire que Bruno Marchand. Donc finalement, même si c'est plutôt Stéphane Lachance qui était visé dans cette affaire de loi électorale qui a été bafouée, bien, finalement, ça nuit plus à Sam Hamad qu'à Stéphane Lachance en bout de ligne.
En effet. Un autre auditeur qui écrit « Quand le chantier du tramway va défigurer et paralyser Québec, je vais m'amuser à tourner le fer dans la plaie. » Tu auras le droit de le faire, ce sera ton opinion. Mathias, comment Sam Hamad vit ça sur le terrain d'être rendu troisième à 14% dans les intentions de vote?
Bien, c'est sûr que du côté de son parti en interne, l'heure ne doit pas être à la fête. On va pas se mentir. Par contre, Sam Hamad est sorti ce matin, puis il restait confiant, il gardait la tête haute. Bon, il disait qu'il avait déjà connu ça, des sondages de derrière, puis qu'il avait su remonter au cours de sa campagne, au cours de sa carrière politique. Puis il a utilisé un peu la donnée qui est à son avantage dans ces sondages-là, parce que oui, il y a le taux, il y a la projection pour les différents candidats, mais de son côté, pour lui, la donnée qui est importante, c'est le taux d'insatisfaction.
Moi, le chiffre qui m'intéresse, là, c'est le taux d'insatisfaction, la volonté de changement. Ça, là, dans tous les sondages, c'est les chiffres qui comptent. Le taux de changement, le taux d'insatisfaction sont très élevés. Les gens veulent du changement. C'est clair. On n'a jamais eu ça dans la ville de Québec depuis longtemps. À partir de là, les gens regardent qui est capable de faire le changement et le taux de changement inclut le tramway. Pour ça, on répète encore une fois aujourd'hui, nous, on est la seule équipe capable d'arrêter le tramway de novembre.
Anthony, est-ce qu'il se croit réellement dans ce qu'il dit ou c'est plus, il n'a pas le choix, il fait de la politique?
Ben, d'après moi, il y a une mauvaise journée, là, puis ça, on ne peut pas le nier, mais en politique, tu ne peux jamais démontrer une faiblesse face aux sondages. C'est sûr que quand tu as des mauvais sondages, tu vas avoir tendance à dire « moi, je ne crois pas à ces sondages », puis quand tu as un bon sondage, tout à coup, tu crois à ces sondages, c'est un classique.
C'est comme en radio, la façon de faire des sondages n'est pas bonne quand tu n'es pas numéro un, mais quand tu es numéro un, tu ne le remets pas en question, cette façon de faire-là, donc il n'y a pas de doute là-dessus. La CAQ, même principe, hein, on voulait tellement des élections proportionnelles pour pouvoir gagner le pouvoir, puis quand on a eu la plus grande majorité de l'histoire, ben, Québécois ne nous demandent pas ça. C'est toujours ça qui se passe. David qui écrit « Anti-tramway, anti-piste cyclable à la grandeur, mais si bol, je crois que je vais voter pour Marchand. » C'est la preuve que ce qui s'est passé la semaine passée a eu justement une incidence sur le vote des gens.
Mais j'ai peur que les gens soient insatisfaits longtemps après parce qu'ils votent un peu par dépit de ce qu'on comprend. Ben dans, du moins dans notre texto à nous.
Dans nos textos, en effet. Par contre, pour la première fois, le taux de satisfaction dépassait le taux d'insatisfaction dans le dernier sondage pour Bruno Marchand.
C'est un point.
Très léger, 52 à 48
%. C'est divisé, mais en même temps, c'est des taux de satisfaction, c'est généralement, ça tourne autour de ces eaux-là, que ce soit un premier ministre du Québec, du Canada ou un maire d'une municipalité. C'est normal que tu n'aies pas nécessairement une grande majorité de satisfaction. Mais c'est vraiment ça qui ressort des derniers jours de la campagne, c'est que finalement, on n'était pas tant sur les annonces puis les visions des choses, on était plus sur des éléments de caractère. Donc, c'est quoi l'attitude, l'approche en politique de chacun de ces candidats-là, et ça a avantagé finalement Bruno Marchand, qui a eu l'air de l'adulte dans la pièce, comme le disait l'auditeur.
Mathias était là en remplacement de Pascal Cévé lorsqu'elle est montée le Kilimanjaro. Félicitations encore, Pascal Cévé, pour ta montée du Kilimanjaro. Puis à un moment donné, tu me dis, je m'en rappelle, « Hey, Jeff, aimerais ça aller couvrir Sam Hamad puis Stéphane Lachance, mais ils font jamais d'annonce. Fait que je suis toujours rendu avec Bruno Marchand. Elle aime bien le maire Marchand, mais je veux pas que ça soit mon ami. Ben là, Sam Hamad, va-tu changer de quoi dans sa stratégie à 14 %?
Ben, je pense que à 14 % avec deux semaines de campagne, il a pas le choix d'ouvrir la machine à un moment donné, si je peux le dire comme ça. Puis c'est ça qu'il nous a dit aujourd'hui. Une annonce chaque jour pour les deux prochaines semaines. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Voici sa réponse.
Les deux dernières semaines dans une élection, c'est là que ça se passe. Mois d'avril, mois de mai, là, pensez... Moi, le monde, mois d'avril, mois de mai, il y en a qui me demandaient s'il y avait une élection. Ils ne savaient pas. C'est pas... C'est... Les gens, ils ont d'autres choses à faire. Vous autres, vous êtes là-dedans, là, mais eux, là, sont dans leur vie. Puis là, là, ils savent que l'élection s'en vient. Il reste deux semaines. Deux semaines, c'est là que ça se décide. Je vous le dis.
Antonine, je me fais l'avocat du diable. 26 % au début de la campagne, Sam Hamad, 18 % au deuxième sondage, 14 % au troisième sondage. Il y a bien beau dire que les gens étaient ailleurs, les gens l'ont bien, s'il vous plaît, aussi. Là.
Mais tantôt, je vous parlais de tendance. C'est ça, là. On perd des plumes tranquillement au fur et à mesure de la campagne. Est-ce que les choses peuvent changer d'ici deux semaines? C'est sûr!
C'est clair.
Mais la tendance est contre lui en ce moment. Puis c'est vrai que les gens sont passés dans leur salon à écouter la télé temps plein là, puis à regarder chacune des annonces. Mais qu'est-ce, quand ils entendent parler de sa maman, de quoi ils entendent parler?
Du négatif.
Ben, c'est du bon, négatif. Ça. Puis il peut bien accuser les médias, là, mais à un moment donné, il y a une limite à... Mathias, tu le disais, là, on voudrait vous couvrir davantage, mais quand il n'y en a pas de matériel,
il
n'y en a pas.
Autour de là.
Ben, c'est ça, quand il n'y a rien à couvrir, il n'y a rien à couvrir, malheureusement. Là.
Puis... Mais ça, c'est quand même particulier de la part de sa maman. C'est un politicien d'expérience. Ouais. Puis vous m'avez dit qu'il a avoué avoir eu une stratégie pas tout à fait assez
en
éloquente
effet,
pour lui en attendant trop longtemps avant de donner un peu de chair autour de l'os. Mais il est peut-être trop tard.
Oui, ben c'est ça. Peut-être trop tard. J'ai presque le goût de le dire comme ça. Bruno Marchand, ça fait deux semaines qu'il fait une annonce par jour.
Tout le temps.
Puis M. Hamad réagit sur des projets de Bruno Marchand en ce moment. Moi, c'était la discussion que j'avais ce matin avec Véronique Bergeron. Il n'y a rien qui émane réellement d'un genre de stratégie personnelle où ils ont évalué un projet. À moins que j'ai manqué quelque chose, tout ce que je vois, c'est une réaction à ce qui existe déjà.
Oui, ben ça ressemble un peu à ça, honnêtement. Là, même aujourd'hui, là, on va en parler sous peu.
Oui, allons-y tout de suite. Rapport... Battons-le. Faire pendant qu'il est chaud. Yes, il y avait une annonce de la part de Sam Hamad ce matin. Puis encore là, c'est une annonce pour dire « Marchand pas bon ».
Oui, bien ça ressemble à ça. C'est une annonce en termes de mobilité. On dit vouloir revoir des corridors vivacité. Donc, évaluer s'ils sont vraiment utiles ou pas ou s'ils nuisent à la circulation. D'ailleurs, on a fait l'annonce ce matin devant le boulevard Perle-Lièvre où il y a présentement un corridor vivacité qui va être revu, qui va être retiré par l'équipe de Sam Hamad, justement. On veut relancer le projet de pont à étagement, notamment, mais on comprend que ça dépend pas juste de Sam Hamad, mais aussi du gouvernement provincial. On veut retirer jusqu'à 200 interdictions de virage à droite, mais en toute sécurité de ce que M. Hamad dit. Puis on veut faire une utilisation accrue de l'intelligence artificielle qui est déjà utilisée pour la ville de Québec. On veut l'améliorer en gros. Donc, on a fait l'annonce devant Perle-Lièvre, le corridor le plus ciblé par l'annonce, vraiment. Puis Hugo Langlois, candidat dans Vanier-du-Berger, justement le district en question, indique pourquoi l'implantation de ce corridor-là était une erreur.
Autre élément, il y avait des corridors cyclables ici avant. Ils étaient insuffisants, ils étaient d'une autre époque. Mais là, ce que les gens nous disent, ça, c'est beaucoup trop le futur. On n'est pas rendu là. Donc, on va trouver une solution mitoyenne. Maintenant, combien ça coûte d'avoir fait ça versus combien ça coûtera de l'enlever? C'est ça la question. La question, c'est pas combien ça va coûter de redonner aux gens ce qu'ils nous demandent. La question, c'est combien ça va coûter d'avoir fait une erreur sans l'admettre. Parce que c'est ce que les gens nous disent. C'est une erreur. On veut que tout le monde ait sa place sur Père Lelièvre.
OK, Antonine, t'étais pas là vendredi quand j'ai dit, quand Mathias nous a présenté les extraits justement des gens à l'Université Laval où j'ai dit, hey là, les candidats en mairie devraient écouter ça puis se dire, ouais, moi je rêve d'un politicien qui planifie la ville pour dans 15 ans.
Le futur.
Dans 20 ans. Pas dans tout de suite, là. T'sais, tout de suite, là, c'est les baby boomers qui vivront pas cette ville-là. Là. Faut regarder les jeunes, comment ils vivent, comment ils vont vivre. Et planifier la ville comme ça, parce que des grands projets, ça se planifie sur 15-20 ans, ça se planifie pas sur un mandat de 4 ans. Ben, Hugo Langlois vient de complètement dire la différence de ce que je pense.
Les gens nous disent, ça, c'est trop le futur.
Ça, c'est trop le futur. Qu'est-ce qui est trop le futur?
Je pense que cette ligne de presse-là devrait être revue pour la suite des choses.
Par contre,
de dire que sur l'acceptabilité sociale, sur la manière d'être à l'écoute, on le sait que c'est une des critiques de l'administration Marchand. C'est qu'on considère que des fois, il est un peu en mode, c'est le même, c'est même, puis oui. les gens vont s'habituer. D'ailleurs, on en a parlé avec lui quand il est venu en studio la semaine passée. Là, comment on fait pour aller chercher plus d'adhésion? Je pense que ça fait effectivement partie du défi de M. Marchand. Mais là, dire ça, c'est trop le futur, là.
C'est bizarre.
Je me suis un peu étouffé avec mon café.
Jonathan qui nous dit « Bien content de voter à Lévis ». Bien, ça tombe bien, mon Joe, parce que demain midi, sur les ondes de Boulevard 101, à l'émission On en jase, Serge Bonin, chef de Repensons Lévis, Isabelle Demers, chef de Lévis Force 10, et Stephen Blainey, chef de Prospérité Lévis, débat pendant 30 à 40 minutes sur nos ondes. Donc, soyez-y, mesdames, messieurs.
En même temps, super important parce que la Rive-Sud et la Rive-Nord, c'est interrelié.
Ben oui,
ça va l'être encore plus pour les prochaines années avec les projets de mobilité.
Ah oui, donc ça va être un débat très intéressant. Anne-Marie, je ne suis pas trop marchand, mais je dois avouer qu'il n'y a personne qui me convainc d'aller ailleurs pour l'instant. T'sais, quand on parle d'une victoire pratiquement par défaut à cause du comportement de Sam Ahmad et de Stéphane Lachance. Pascal, je n'étais pas dessiné encore entre Ahmad et Lachance. Leur alliance aurait réglé mon dilemme. Mais là, les deux, c'est gênant. Claude André, c'est triste que ce soit la faiblesse des adversaires et non la force de Marchand qui va construire la ville. Bref, Marchand ne perdra pas, mais pour moi, c'est une victoire sans mérite. Mais c'est vrai qu'il ne perdra pas, juste à cause que les deux, puis là, excusez-moi du terme, là, c'est les termes que j'utilise avec mes ados, là, mais juste parce que les deux cocos de porc ont trouvé rien d'autre à faire que de chicaner.
Ben c'est ça. Puis, tu sais, une victoire sans mérite, je veux quand même dire qu'en politique, l'important, la première chose, c'est que tu gagnes.
Oui.
Après ça, tu recherches ton mérite comme tu veux, mais tu sais, on peut... Comment dire? Je pense qu'ils vont l'apprendre pareil. On va dire ça comme ça.
Oui, ils vont l'apprendre pareil parce que, d'après moi, puis là, c'est pas encore réglé, là, on s'entend, là, mais c'est sûr qu'ils étaient plus nerveux au début de la campagne qu'ils le sont à l'heure actuelle. Hey, Sam Ahmad, c'est souvent plein de la couverture médiatique. Et es-tu encore revenu là-dessus, mon Mathias?
Malheureusement, oui, j'ai le goût de dire. On aurait dit qu'il passe pas à d'autres choses, donc on peut l'écouter. Il lance une petite pointe.
On a un bon programme. On a des messages à envoyer. On continue de les envoyer. Notre défi, là, que les citoyens nous entendent. Et évidemment, on fait une annonce pour le vétéran, bien, la couverture est bonne, mais elle pourrait être meilleure. Et on fait des bonnes annonces, puis, mais on fait des annonces répétées, on en parle pendant longtemps, puis on fait une annonce qui touche 6000 personnes à Québec qui ont subi des éléments importants. Puis, bien, nous, on va continuer à répéter, on continue à faire nos annonces, puis on souhaite que les citoyens nous entendent.
Encore une fois, je tiens à le répéter quand il a dit on fait des annonces répétées, puis on en parle, il parle que les médias parlent plus de Bruno Marchand que Sam Ahmad.
Ouais.
Bruno Marchand a un agenda politique, un agenda de communication beaucoup mieux développé qui fait en sorte que les médias en parlent plus. Du côté de Sam Ahmad, on n'a pas fait beaucoup d'annonces dans les dernières semaines.
Clairement.
On l'a déjà dit. Son annonce sur les militaires, vendredi en fin d'après-midi, c'est la fin de la semaine.
Ben
c'est
oui,
pas nécessairement.
Vendredi 15h. Et toi, stratège des communications, Antonine, tu fais toutes tes conférences le vendredi à 15h?
Bien, d'habitude, vendredi à 15h,
c'est
ce
mauvaise
que
nouvelle.
Tu veux qu'on ne couvre pas.
C'est
ça. Sort les vidanges, on appelle ça. On sort un communiqué pour dire, là, il faut qu'on dise ça, mais on veut pas que ça soit couvert.
Exactement. Et les vétérans, tu sais, c'est une super belle attention à nos vétérans, puis jamais je vais aller à l'encontre de ça. Mais c'est pas une annonce de campagne électorale.
Bien, c'est ça. J'allais dire la même chose. Moi, les vétérans, je les remercie, je les respecte. Je suis contente qu'il y ait une annonce pour eux.
Je les adore et merci infiniment d'être là pour nous et d'avoir été là pour nous.
C'est moins de 1 % évidemment de la population qui est concernée par cette annonce-là. Je pense que ça aurait pu faire l'objet d'une annonce dans le cadre d'une plus grande annonce sur, par exemple, le coût de la vie ou s'il y avait eu plus qu'un élément qui s'adresse aux vétérans. C'est une petite annonce. Puis en plus, quand tu nous envoies ça dans une fenêtre médiatique qui n'est pas super favorable, bien, après ça, tu peux pas juste te plaindre que les médias te couvrent pas. Là. J'ai plusieurs conseils à donner là-dessus, d'ailleurs. Là, des meilleures fenêtres pour faire des annonces. Ouais. Le dimanche, en passant, c'est très bon, parce que le lundi, on a besoin de sujets.
En effet. Un auditeur, une auditrice nous écrit, vous parlez pas des dépenses de 1,2 million pour les voyages à Marchand et de toutes ces taxes, par exemple. On en parle régulièrement. On a parlé, justement, du coût des voyages de Bruno Marchand. Sûrement qu'on ne sera pas dans ton ordre d'idée d'esprit, mais pour nous, 1,2 million de dollars sur 4 ans pour le maire de Québec qui gère un budget de 2 milliards par année, n'importe quel président d'entreprise qui a un budget de 2 milliards va dépenser ça.
Mais ça, c'est fascinant parce qu'on pourrait parler des taxes à l'immatriculation chaque jour, les taxes au chat, le ci, le ça, les taxes foncières. Tout ça, on pourrait en parler chaque jour, mais c'est exactement ce qu'Antonine, toi, Mathias, tout le monde fait résonner en ce moment. Bruno Marchand prend du galon, pas parce qu'on parle pas assez de ses erreurs, parce que les autres en font.
Ils en font plus.
Oui.
Exactement. Et la personne rajoute, je pensais pas que vous étiez du pro-marchand. Je suis pas du tout pro-marchand, c'est juste qu'on
analyse. Ça vient de sortir.
Oui, oui. On analyse la situation avec rigueur puis avec les informations.
Pour moi, c'est l'image par excellence de ce qui se passe sur la joute politique municipale en ce moment.
T'as entièrement raison. C'est un excellent point. Mathias, on termine avec Sam Hamad. Bon, on n'a pas le choix, là. Faut closer sa fameuse chicane, là. Et y en a-tu des enregistrements? Y en a-tu pas? Il se passe quoi? Il va-tu avoir des plaintes? Qu'est-ce qui se passe avec cette chicane-là? On met ça de côté ou on continue là-dedans?
Ouais, ben faut closer, mais en même temps, on voit que Sam Hamad s'était lancé sur les enregistrements, puis s'est vite retiré, mettons.
Je suis surpris d'avoir une copie d'enregistrement quelque part. C'est la... OK. Merci beaucoup. Bonne journée.
Donc, ça, c'est à la Sam Hamad. À chaque fois qu'il se lance quelque chose, que là, finalement, il est trop sûr, c'est « Merci, bonne journée », puis il s'en va.
Je comprends même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Peux-tu m'expliquer?
OK, en gros, il disait qu'il doutait qu'il y ait des copies réelles d'enregistrement. On parle présentement de la fameuse rencontre entre Hamad puis la chance qu'il a eu, qu'il a supposément eu poste offert d'un côté puis de l'autre. Du moins, c'est ce que les deux parties s'accusent. Là, il s'est lancé. Qui doutait qu'il y ait des enregistrements de cette fameuse rencontre-là, parce que c'est ça la rumeur qui coule, que Stéphane Lachance en aurait.
Mais là, Stéphane Lachance a annoncé ça, qu'il avait transmis soit des enregistrements,
soit des témoignages.
Exactement. Je m'excuse, mais c'est dangereux d'aller dire que ça n'existe pas, parce que ça serait vraiment, ça va être facile de prouver le contraire. Pourquoi Stéphane Lachance aurait menti là-dessus, honnêtement?
C'est peut-être pour ça que j'ai coupé ça court, justement, sa déclaration.
C'est rendu compte qu'il s'en allait sur la pelure de banane.
Exactement, il s'en allait sur la très grosse pelure de banane. Hey Mathias, merci infiniment pour ton excellent travail. Tu vas à Bruno Marchand à 1h30, puis tu vas être dans le retour, si je ne me trompe pas.
Oui, 15h40 dans le retour.
Excellent, j'ai très hâte de t'écouter sur l'annonce de Bruno Marchand, mais je pense pas que c'est une annonce aujourd'hui. Je pense qu'il va répondre aux questions.
De ce que j'ai compris.
Il va se bomber le torse un peu.
Ah ouais, il va se bomber le torse. Mais avant ça, de ce que j'ai compris, il y a quand même une annonce. Fait qu'il va faire probablement une plus petite annonce vu que l'attention médiatique va être sur le fait qu'il se bombe le torse pour des sondages.
C'est ça. Puis, reste là parce que Mylène nous écrit, je suis totalement d'accord avec elle. Allô, j'aimerais juste souligner le talent et la passion de Mathias. En quelques mois seulement, tu es devenu extrêmement à l'aise et ça se voit que tu aimes le milieu, les sujets abordés, informer les gens. J'aime beaucoup t'écouter, je suis contente que tu reviennes régulièrement. Mais OK, Matt, pars avec ça, voir Bruno Marchand. Puis s'il se bombe trop le torse, fais-toi un print screen de ça, puis dis-y, c'est moi le meilleur ici.
Rien de moi. C'est moi qui va me bomber de torse, finalement.
Exactement.
Merci beaucoup, Mylène, pour le beau commentaire.
En passant, l'auditeur ou l'auditrice qui nous a écrit sur les dépenses de Bruno Marchand, merci, j'adore lire et entendre vos opinions différentes. J'aime avoir une ouverture d'esprit. Puis bien, des fois, vous réussissez à me convaincre. Donc, continuez comme ça. On a justement, Marchand a dépensé combien dans les 4 ans en voyage? Environ 10 000 par année. Et ça fait pas tout rembourser. Ça a de l'allure, son affaire. Bien, tu sais, à un moment donné, un maire de Québec, là, puis moi, ça va toujours être mon patois, puis merci d'écrire puis d'essayer de me convaincre, mais un maire de Québec, si on veut que Québec, comme capitale nationale, rayonne, il va aller à l'étranger. Puis il est le président des villes du patrimoine mondial. Puis ça, c'est un excellent coup pour Québec. Donc, il y a pas, tu sais, on peut rester chez nous dans nos petites affaires, mais on ne développera pas grand-chose.
En fait, on a le droit, en fait, les gens ont le droit de vouloir un maire qui ne voyage pas. Moi, j'ai pas de problème. Par contre, de remettre ça en question comme si c'était un enjeu d'éthique, comme s'il y avait exagéré.
C'est vrai, c'est un bon point.
Mais si vous voulez un maire qui ne voyage pas puis qui s'occupe des vidanges puis du déneigement, c'est bien correct aussi.
Oui.
Puis après ça, ben, on débat. Mais quand on vient le couvrir comme si c'était un bandit qui avait volé de l'argent dans la caisse publique, là, c'est là que je débarque.
PO nous écrit, l'annonce des vétérans aurait dû être jumelée avec une annonce sur l'itinérance santé mentale, car dans trop de cas, les vétérans tombent là-dedans. C'est un excellent point, PO. Mm-hmm. Ah oui, excellent point. Tu peux aller donner ton nom pour le stratège de Saint-Mandat. bon, OK, on vient de parler municipal. On est revenu un peu sur la chicane, mais là, Antonine, il y a une chicane dans le Parti conservateur du Canada. On se lance des tomates.
Ouais, des tomates, t'es poli. OK. Dans le fond, Pierre Poilievre, la semaine passée, il y a un enregistrement qu'il a fait dans un podcast très conservateur, là, très, très favorable, on va dire, au Parti conservateur, dans lequel il y a eu des propos assez particuliers où on disait que ben, dans l'affaire SNC-Lavalin, hein, il y a quelques années, quand il y a eu le conflit entre Justin Trudeau et la ministre, sa ministre de la Justice, et qui a fini par démissionner, là, Mme Ribble, Pierre Poilievre laisse entendre qu'il y a eu cover-up. Il y a eu cover-up de la part de la GRC et que, dans les faits, M. Trudeau devrait être en prison, là, quasiment présentement.
C'est gros quand même.
C'est
ben oui.
Très gros. OK. Puis l'affaire SNC-Lavalin, je veux dire, ça a été une grosse affaire. Il y a eu toutes sortes d'enjeux éthiques qui ont été couverts par les médias. Mais d'aller dire que la GRC est de connivence et que c'est une police politique, finalement, ça, c'est extrêmement grave. Et, bien, bon, écoutez, quand j'ai vu ça passer la semaine passée, j'étais vraiment comme, quel est l'usage de cette sortie pour Pierre Poilievre?
Exactement. Là, et là, il y a des critiques conservateurs, des anciens du Parti conservateur qui sont sortis, dont Dimitri Soudas, qui est justement là, un chroniqueur pour le réseau Radio-Canada RDI.
Oui, et Dimitri Soudas, c'est l'ancien directeur des communications de Stephen Harper. Et il commente dans les médias. Donc, c'est quelqu'un qui est connu au Québec et qui est connu dans le reste du Canada aussi. Il a travaillé avec tous les journalistes pendant des années. Donc, c'est pas banal, là, sa sortie. C'est disons, susceptible de faire mal à Pierre Poilievre, qui a un vote de confiance qui s'en vient en janvier et qui a subi une défaite électorale le printemps passé. Donc, un chef qui subit une défaite électorale est toujours en danger.
Mm-hmm.
Et il soulignait que, ben, premièrement, c'est plus le Parti conservateur qu'il a aimé, qu'il reconnaît avec les valeurs conservatrices, qui trouve qu'on est devenu trop populiste, qu'on crache sur les institutions, sur les médias. Bref, il fait un parallèle même avec l'approche de Trump.
Oui, je te fais entendre justement ce que Dimitri Soudas avait à dire ce matin sur les ondes de RDI par rapport à la différence entre Stephen Harper et Pierre Poilievre.
Et le dernier point que je vais faire, Catherine, en 2006, puis là, je mets mon chapeau d'ancien conseiller directeur des communications de Stephen Harper, nous avons fait campagne contre les libéraux sur le scandale des commandites. C'était un scandale où il y avait de la corruption politique.
Oui.
Stephen Harper n'a jamais exigé que Jean Chrétien ou Paul Martin soient mis en prison. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Pour plusieurs, puis certains disent, ou M. Reyes ce matin dit, que peut-être Dimitri Soudas est en train de dire tout haut ce que plusieurs autres pensent tout bas.
Et il ajoute...
Peut-être que les gens sont fâchés, frustrés avec le gouvernement, avec tous les enjeux qu'on discute sur une base quotidienne sur notre émission, mais quelqu'un qui est un premier ministre en attente, dans une démocratie de loi et d'ordre, a un droit de réserve à dire qu'on aurait dû mettre Justin Trudeau derrière les barreaux, que la GRC, la police nationale, avait des preuves et a caché ces preuves, et que la police nationale, la GRC, est méprisable. Ça mine la crédibilité de nos institutions démocratiques.
En plus, Antonine, là, moi, je veux dire, en tant que commentatrice de l'actualité, je me pose la question dans quel camp je dois me commettre. Est-ce que je dois avoir une oreille attentive pour ce qu'on vient de dire du côté de Pierre Poilievre, ou je dois fermer la porte en me disant, ben, ça fait pas de sens, parce qu'en plus, ben, quand on entend un soudasque commenter, tu te dis, ben, non, non, ça va trop loin, donnons pas d'intérêt à ce que... C'est difficile de se positionner, là.
Mais en fait, c'est qu'il y a deux niveaux. Il y a la question sur le fond des choses avec ce qui s'est passé avec SNC-Lavalin et j'ai constaté sur les médias sociaux en fin de semaine qu'il y a beaucoup de gens qui croient à la version de Pierre Poilievre. Mm-hmm. Ça, c'est un choix de vie, là, puis je laisse les gens avec leur opinion. Mais après ça, le vrai débat, c'est sur la capacité de Pierre Poilievre à être premier ministre du Canada. C'est ça le vrai débat en ce moment, et c'est ce que Dimitri Soudas et d'autres conservateurs veulent souligner. C'est que ce gars-là n'est pas capable de s'élever assez pour devenir premier ministre et de mener les conservateurs à la victoire. Deux choses là-dessus. La première, c'est que je suis assez d'accord que ce qu'il a fait la semaine passée, ça ne fait pas premier ministre. Je trouvais qu'il avait fait une bonne campagne électorale, Pierre Poilievre, qui avait réussi à mettre sa cape de premier ministre. Et pour moi, ce n'est pas lui qui a été battu, Pierre Poilievre, à la dernière campagne. C'est un concours de circonstances sur lequel il n'y avait absolument aucun contrôle, qui est le retour de M. Trump, l'arrivée de Mike Carney avec une aura. Il n'y avait rien à faire. Puis comme tel, là, si tu regardes son résultat à lui, c'est pas si mauvais, mais le NPD s'est effoiré et ça, tous les votes sont allés du côté des libéraux. C'est pas lui qui a perdu ses votes au profit de Mark Carney, c'est les votes NPD qui sont tous allés finalement à l'option la plus rassurante pour des gens plus de centre-gauche.
Oui, parce que les conservateurs ont fait des pointages au niveau du pourcentage de votes comme il n'y avait jamais fait dans l'histoire.
Non, c'est ça. Fait qu'il faut, moi, je trouve qu'on évite d'acheter les tomates à Pierre Poilievre pour la défaite qu'il a connue cette année. Maintenant, sur sa capacité à être au-dessus de la mêlée, c'est difficile. Et la semaine passée, il a reculé. Ça ne donnait rien d'aller dire des affaires de même, comme quoi Justin Trudeau devrait être en prison. Parce que sa base n'est pas en train de le lâcher à Pierre Poilievre. Mm-hmm. Il n'aurait pas dit « Mon Dieu, la semaine vient de passer », puis il n'a pas accusé Justin Trudeau de devoir être en prison. Je vais arrêter de voter pour lui, puis il va perdre son vote de confiance. Puis je vais pas... pas du tout. Donc, tout ce que ça a fait, c'est donner une occasion pour les conservateurs plus Tory, là, parce que là, il faut le dire, tu sais, la dernière course à la chefferie, Pierre Poilievre l'a gagné contre Jean Charest, qui est un conservateur plus classique, plus Mulroney, ce qu'on appelle les progressistes conservateurs. Ouais. Et Pierre Poilievre est plus de l'approche populiste, donc la droite plus populiste. Il a gagné de manière convaincante, Pierre Poilievre, contre Jean Charest, alors que, tu sais, quand tu regardais le début de la campagne, tu disais, mon Dieu, c'est sûr que Jean Charest va gagner. Pas du tout. Donc, là, c'est ça, la guerre en ce moment. C'est, je pense qu'il y a des gens qui voient le Parti conservateur et qui disent, ce n'est plus mon parti, et qui souhaiteraient que le Parti conservateur reprenne ses, là, je le mets entre guillemets, parce que c'est leur vision des choses, mais leur lettre, ses lettres de noblesse. Mais dans les faits, ça va être extrêmement difficile pour ces gens-là d'aller reprendre, entre guillemets, le Parti conservateur. Et je ne vois pas en ce moment d'opposant vraiment se démarquer pour aller tasser un Pierre Poilievre. Il y avait des rumeurs pendant un bout de temps que Doug Ford pourrait être le poulain de ce genre de conservateur Tory. Mais Doug Ford ne parle pas français en passant. Là, puis pour devenir premier ministre du Canada,
il faut que tu parles français parce que sinon français. Il va vivre l'épopée Carney qu'il vit actuellement avec le français.
Il parle moins bien que Mark Carney, pas mal.
Il parle moins bien que Mark Carney, donc t'imagines. On termine le caucus Iaccarini qui est toujours disponible du lundi au jeudi sur les ondes de Boulevard 102 entre midi et midi 30 à l'émission On en jase. Je veux te faire écouter Dimitri Soudas justement sur la stratégie de Pierre Poilievre d'attaquer encore Justin Trudeau. Même si Justin n'est plus là.
Justin Trudeau n'est plus là. M. Poilievre ne pourra pas faire campagne contre Justin Trudeau. Justin Trudeau est quelque part sur une plage. c'est cette obsession Trudeau où il faut tourner la page. Et...
T'en penses quoi? Moi, je trouve que Poilievre est encore omnibulé par Justin Trudeau.
Il s'ennuie!
Puis pendant ce temps-là...
Jeff!
Ouais, mais là, Mark Carney fait des gaffes par-dessus gaffes. Il n'a rien réglé. Pourquoi il n'attaque pas Carney sur le fait qu'il ne règle rien avec Donald Trump? Pourquoi il frappe encore sur Trudeau?
Je pense que poser la question, c'est y répondre, là, Jeff. Là. Il n'y en a pas de bonne raison de continuer de fesser sur Justin Trudeau. Ouais. Tu sais, peut-être que tu veux... Peut-être attaquer les libéraux qui étaient là sous Trudeau, sur le bilan. OK, très bien, mais il s'ennuie. Il s'ennuie, Pierre Poilievre.
Oui, il s'ennuie Trudeau. Parce que quand Justin Trudeau était là, il y avait un petit 50% dans les sondages facile.
Il lui donnait facile.
C'était son meilleur ennemi.
Mm-hmm. Parce que Justin, là, présentement, il est sur la plage avec elle.
Et qu'il a l'air bien.
I kiss Justin.
J'ai
ça va être ta prochaine tune.
En fin de semaine, là, je l'ai regardé dans les podcasts avec son fils, avec ci, avec ça. Ouais. J'ai l'impression là, que Justin Trudeau s'est dit « Oh diable, tout ce que je représentais, je vire ma vie de bord et je m'en contrefous. » Il y avait m'en foutisme.
Il fait bien. Par contre, je dois vous dire que quand je l'ai vu lancer le nouveau vidéo de son
j'ai
fils,
eu mal.
J'étais comme « Excusez, mais il y a Nepo Kid et Nepo Kid. » Si vous ne savez pas c'est quoi des Nepo Kids, c'est népotisme, enfant de népotisme. Là. Moi, si je voulais j'avais lancé ma carrière musicale puis que mon papa ou ma maman était connu, je le mettrais pas dans mon petit vidéo pour lancer mon nouveau vidéo. Ouais. Hey, ça fait-tu assez? Papa!
J'ai besoin de toi!
Je veux tes followers!
Puis on le voit à bord de voitures de luxe.
Ah, c'est quétaine!
C'est vraiment quelque chose. Des studios d'une grande valeur que même des artistes, j'ai l'impression, connus n'ont pas. Tu te dis, bon, l'argent est venu d'où? Tu sais, il y a quelque chose.
Mais après ça,
chose.
Il va dire, moi, j'ai construit ma carrière moi-même, là. Non, non.
Non, mais c'est ça, mais c'est exactement ce que Patrick Roy n'a pas fait pour Jonathan Roy.
Ben, c'est ça. Mais
Jonathan Roy avait demandé à son père de rester à l'écart en disant, hey, je vais me débrouiller par moi-même, même si t'es Patrick Roy.
Moi, je pense que c'est la chose à faire. Ben oui. Tu veux monter une crédibilité. Cela dit, tout ça pour dire que Pierre Poilievre décroche. Ouais. Il n'est plus là, Justin.
Il est parti. Je termine le caucus avec des commentaires d'auditeurs. Merci de réagir au ton 418-971-101. Le Parti réformiste a pris le contrôle du Parti conservateur. T'en penses quoi? C'est ça? Hein?
C'est ça.
C'est le Parti conservateur de l'Ouest, non conservateur, sur le point de l'économie. Poilievre doit nourrir la frange de l'Ouest. En effet, ça fait partie, là, justement, d'un truc qu'on voit. Et Pierre Poilievre a besoin de Justin Trudeau comme Batman a besoin de Joker.
Et voilà, quel bon résumé.
On termine, justement, le caucus sur cet excellent résumé. Continue à interagir au 418-971-101. Après la courte pause, passage remarqué, Pascal CV de Régis Labeaume. Tout le monde en parle.
Oui, il n'a pas fini avec la politique. Même s'il se dit contre d'être la belle-mère, puis de commenter, puis de ci, puis de ça. Il adore les médias, mais mon petit doigt dit que la politique lui manque, même s'il dit que non.
Ah oui, ça le démange tout le temps. Donc, on en parle après cette courte pause à l'émission d'En jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Il est présentement 12h42 minutes. Vous êtes sur les ondes de BLVD 102.1. C'est l'émission On en jase. À la météo, enfin de l'eau pour nos agriculteurs, pour le fleuve, pour nos lacs, pour nos rivières. C'est des averses. C'est 15 degrés aujourd'hui. Il fait présentement 13 degrés. 11 degrés cette nuit avec des averses, c'est 20 mm depuis qu'il va tomber aujourd'hui. Demain, 40 % de possibilité d'averses et 13 degrés. Par la suite, c'est des averses pour toute la semaine. Donc, c'est rare que je dis ça, mais enfin de l'eau, Pascal, c'est vrai. On n'avait pas le choix. Là, la terre en a besoin au grand complet au Québec. T'es d'accord avec moi?
C'est l'automne. La seule chose, c'est que ça va faire tomber mes belles feuilles colorées dont j'ai pas pu vraiment profiter. Là.
Je parle de ça. Val, hier, me dit... Jeff, check notre arbre rouge dans le cours. Il était écœurant.
C'est niaiseux, mais moi, les quatre saisons,
je les aime. Moi aussi, je suis pareil.
D'avoir
comme
manqué
toi.
Ça, même si j'avais une opportunité hors pair, ça me fait quelque chose.
Non, je comprends. Je comprends très bien. Hey, quand je dis que vous pouvez me faire changer d'idée, là, Alex qui nous écrit, je trouve que c'est une généralisation ce que vous avez dit sur Pierre Poilievre, car je vois beaucoup de vidéos de Poilievre qui attaquent Carney à la Chambre des communes. Sais-tu quoi, c'est vrai, Alex? Je me suis peut-être laissé un peu trop embarqué dans le discours de Dimitri Soudard. C'est vrai qu'il a quand même été poignant envers Mark Carney. Fait que quand je vous dis, les auditeurs, que vous êtes importants là, pour moi et Pascal CV, là, ben c'est le bon exemple au 418-971-101. Je vous le rappelle. Pascal, avant de parler du passage de Régis Labeaume, très remarquable, tout le monde en parle, c'est quoi les manchettes principales à l'heure actuelle?
Celle qui a retenu notre attention dans les dernières heures, c'est le Canada. En fait, on va parler du pays comme quoi on se dote d'une nouvelle agence anti-fraude. Mm-hmm. La première réaction qu'on a eue tous et chacun ici, c'est une agence vraiment.
Ouais,
est-ce que
ça.
Ce sera trop coûteux? Est-ce que ça va vraiment faire quelque chose?
Vous voulez pas couper, eux autres, dans la fonction publique, les libéraux?
Est-ce du capital politique ou vraiment ça sera efficace? C'est pas mal ça la question, mais c'est une création d'agences fédérales pour des crimes financiers, des mesures préventives, en fait, qui sont exigées envers les banques. Et on veut une mise en œuvre d'un code de conduite volontaire. Le mot volontaire est super important dans ce que je dis. Donc, c'est pas une obligation, c'est volontaire, mais ce sera des points centraux de cette nouvelle stratégie-là nationale anti-fraude dévoilée ce matin. Alors, ça a été fait par le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne. Politique qui vise à lutter contre, les crimes financiers, mais à l'échelle canadienne. Donc, on a évalué 643 millions de dollars en 2024, augmentation de près de 300 % depuis 2020, selon le Centre antifraude du Canada. On utilise plein de techniques, vous le savez, des outils de plus en plus sophistiqués. On prend l'intelligence artificielle, on utilise votre voix, on utilise pas mal les sentiments aussi, mais il y a beaucoup de témoignages de victimes d'arnaques. On sait qu'Ottawa voulait s'attaquer à ça. Est-ce que ça sera bon? Bonne question, mais on veut élucider ces crimes frauduleux complexes, notamment ceux liés aux crimes organisés
fraudés et au blanchiment d'argent. Ça va un peu avec la défense dans ce cas-ci. Il y a des gens qui vont travailler de connivence. On va collaborer entre autres avec des instances internationales, le FBI aux États-Unis ou encore la Guardia di Finanza en Italie. Alors, on vise deux endroits très importants là-dedans. Le coût de cette nouvelle politique-là, ça n'a pas été chiffré encore. Et là, ça sera intéressant parce que ça va être inclus dans le premier budget du gouvernement Carney le 4 novembre prochain.
Oui, qu'on attend avec impatience. On parle de déficit d'un déficit qui pourrait aller jusqu'à 100 milliards de dollars. Donc, vraiment, c'est très attendu cette date, comme disait Jean Chrétien, du 4 novembre, bonsoir.
Je vous parle de contrôleurs routiers au Québec dans une nouvelle qui concerne les armes à feu.
On va les armer, je crois, là.
Il y a des agents qui pourraient être munis d'une arme de service. Ça sera compté 2026. Donc, la province qui projette les contrôleurs routiers de les munir, en fait, de ces armes-là. Selon les sources de Radio-Canada, c'est une décision finale qui va doter ces contrôleurs routiers-là d'un outil supplémentaire. Et officiellement, cette semaine, on en parle au Conseil des ministres. Donc, si la décision est prise, ils ne pourront pas porter de pistolet à leur ceinturon avant 2026 parce qu'il va y avoir des délais d'achat d'équipement. On veut sûrement trouver le meilleur. Ouais. On veut sûrement
attends,
faire des appels d'or.
Gouvernement, délai... Ça...
2026. Alors, okay. Il faut aussi la formation.
On ne précise pas début 2026. Fait que 2026, on peut se rendre jusqu'au 31 décembre 2026.
Assurément. Faut que, à base, la décision doit être prise. Puis aussi, il faut une formation pour ces gens-là. Ils vont devoir la suivre à l'école de police de Nicolet. Pourquoi? Ben, à prime abord, on discutait de les munir de pistolets à impulsion électrique pour se défendre. Ensuite, je pense que les histoires entendues, ce qu'on a un peu là, au niveau des palais de justice et autres, ont fait en sorte qu'on s'est penché sur peut-être le port d'une arme à feu, vraiment. Alors, ça devient un petit peu plus complexe sur nos routes. Mais assurément, là, qu'on parle de tout ça parce qu'on veut viser la sécurité de tous et chacun.
Oui, parce qu'on le sait, il y a beaucoup présentement de conducteurs de poids lourds qui font des accidents ici au Québec qui proviennent de l'Ontario, alors on veut vraiment sécuriser nos routes. Donc, j'imagine que Jonathan Julien va être disponible pour venir sur nos ondes lorsque ce sera le temps de l'annoncer. En tout cas, je talonne pas mal son attaché de presse.
Oui, mais il se fait un petit peu rare, là,
oui,
depuis
il se
un
fait
an.
Rare. Ouais, ben, oui,
dans les médias, du moins,
oui,
c'est
très,
complexe.
Oui, très, très, très rare. Même à certaines conférences de presse que j'ai assistées, c'est « Oups, je me sauve tout de suite après avoir coupé le ruban.
Pourquoi?
Je veux pas trop parler. »
Et ouais, la question.
Exactement. Une petite dernière pour la route?
Si c'est la dernière, je vais y aller avec... Les bijoux volés au Louvre, hein? On s'en va à l'international,
ben oui.
Parce que ça fait bien jaser. Voyons, pourquoi le musée du Louvre, le musée, un des musées les plus importants, les plus
comment
appréciés.
Comment ça peut arriver que des bijoux se fassent voler?
Comment on a réussi? Et là, tout le monde est tourné vers cette nouvelle-là. Si vous n'en avez pas entendu parler, voilà, c'était on en jase. Alors, les voleurs ont dérobé en plein jour des bijoux qui ont une valeur, on dit, inestimable au musée du Louvre à Paris dimanche. Donc hier, 8 joyaux qui ont appartenu à des souverains français qui ont été emporté dans un cambriolage qui est arrivé dans la galerie d'Apollon. Alors, Apollon n'a pas pu faire en sorte que ça ne soit pas volé. Mais entre autres, il y a une tiare, un collier de saphir. C'était l'ensemble de bijoux de Marie-Amélie de Bourbon puis de sa famille, Hortense de Beauharnais. Vite comme ça, c'est beaucoup de noms, mais chose certaine, c'est des bijoux qui se valent dans le temps. C'est des bijoux historiques qui valent énormément d'argent avec des pierres précieuses qui ont été travaillées fortement. Et c'est surtout la question de comment... Est-ce que ça a pu être fait en plein jour? Initialement, ça a été emporté par des cambrioleurs. Ça a été retrouvé à l'extérieur du musée du Louvre pendant la fuite. Mais ça nous ramène à cette émission sur Netflix là, du voleur qui est un petit peu partout, puis que Lupin, là,
oui.
Qui a donc bien été intéressant, puis les gens trippaient tout ça. Mais là, on est pas mal dans une histoire vraie.
Mais moi, je pensais que pour voler des bijoux au musée du Louvre, c'était comme dans Ocean Eleven. Là.
Ben oui.
Il fallait que ça se fasse la nuit, quand le fameux gardien de sécurité
avec
regarde
des lasers,
pas. Puis là, exactement, tu te faufiles avec ton habit noir. Mais là, en plein jour, avec plein de visiteurs, pac, je réussis à pogner les bijoux. C'est assez spécial.
On doit certainement suivre le dossier.
Ah, certainement. On va avoir plus de détails, j'imagine, avec l'enquête.
Mais je suis d'accord que c'est de la curiosité malsaine. Mais cette curiosité malsaine se vaut.
Ah oui, ça se vaut. Ben, écoute, c'est des films les plus populaires, les fameux films d'arnaque comme ça et de vol.
Il y aurait été quatre en passant à faire le méfait.
Donc,
ouais.
Complot à quatre. Hey, je veux vraiment que tu nous renseignes sur cette enquête-là.
Inquiète-toi pas que ça va être mon obsession pour
les
prochaines
heures. Parce que ça me fait penser à plein de films de TQ que j'ai écoutés, c'est certain.
Une autre obsession que j'ai depuis des années, c'est Régis Labeaume, ancien maire de Québec, parce que j'ai couvert longtemps.
C'est vrai.
Au municipal, Pour certains, sa dictature, pour d'autres, son règne, pour d'autres.
T'as vécu Régis qui voulait pas parler aux journalistes, mais qui était obligé.
J'ai vécu Régis qui me demande 54 fois, vous êtes qui, vous, la jeune de 22-23 qui se tient bien devant le micro pour poser les questions. Puis Régis Labeaume a toujours été un passionné de politique. Quand il l'a quitté, il était aigri. Il s'était fait avoir par Clotaire Rapaille. Ouais. Il y avait une couple de patentes qu'il avait pas fait. Et surtout, il était dans le débat du tramway. À la base, M. Labeaume devait quitter après 10 ans de politique. C'était ce qu'il souhaitait. Puis il s'est dit, non, moi, j'ai un projet. Certains l'ont vu comme étant un leg politique qu'il souhaitait inscrire dans l'histoire, donc il s'acharnait là-dessus. Chose certaine, il n'a pas encore vu le jour, si jamais vous étiez caché dans une grotte très profonde. Et il a décidé d'ajouter un 4 ans de mandat. Il a été élu et il a continué comme ça à faire de la politique. Il a dit qu'il n'en ferait plus. Il a dit que ça ne tentait plus. Mais depuis, on le voit dans les médias et il commente à peu près tout.
Oui, il y a sa chronique régulière dans la presse, chronique hebdomadaire.
Exactement, encore ce matin, il y avait un article. Oui. Et il était surtout, à tout le monde en parle, hier soir, alors assis sur le siège devant Guy Lepage. Et il a parlé des solutions qu'on devrait choisir et mettre en place pour protéger les élus, parce que la politique n'est plus ce qu'elle était selon Régis Labeaume.
Essayez de rencontrer votre élu provincial dans une année, bonne chance.
Fédéral, encore moins.
Fédéral, dans deux ans, vous ne serez pas capable. Ton élu municipal, tu t'en vas au conseil municipal, tu l'as à 4 mètres de toi, tu peux l'engueuler. Puis comme il est très présent, puis il s'occupe de ses affaires, tu vas le rencontrer à l'épicerie, sur les plateaux sportifs, un peu partout. Alors, la proximité, quand tu fais de la politique, c'est agréable. Moi, j'ai adoré ça. Mais quand ça va mal, c'est épouvantable. Et là, c'est ce qui se passe actuellement. Il n'y a jamais eu autant de démissions que le dernier mandat. Et il y a un moment charnière, c'est la COVID. Le monde est rendu fou. Parle des restaurateurs, les gens ne peuvent plus. Et les politiciens mangent la gratte. Alors, comme le politicien est proche puis est de proximité, c'est lui qui mange la gratte pour tout le monde.
Pour tout le monde.
Pour tout le monde.
Beaucoup de haine sur les médias sociaux, évidemment, aussi. Et en personne, mais il y en a qui se permettent également.
Mais tu sais, ça a toujours eu lieu. Mais effectivement, la boîte de Pandore qui est les réseaux sociaux, ça a changé la donne. Et ça offre, en fait, une belle plateforme. Belle étant un mot, vous comprenez, qui est choisi dans l'opportunité pour les malfrats de la société de commencer à insulter ces personnalités-là qui ont une famille aussi en arrière. Et ça devient un enjeu très, très important. Pourquoi je vous parle de cet aspect-là? C'est parce que, oui, il est passé à tout le monde en parle. Régis Labeaume, mais j'ai aussi écouté les podcasts qu'il a fait récemment sur audio, en fait, où il parle de politique avec des gens qui sont élus, surtout au municipal. Et quand il parle de démission, pour lui, il l'associe beaucoup à cette haine-là, à cette difficulté-là que les politiciens ont dans l'arène publique. Mais il y avait eu un entretien avec Catherine Fournier, qui est mairesse de Longueuil, qui, eux, ont fait un genre d'étude en passant, là, petite parenthèse intéressante, sur la raison de la démission des élus au municipal. Et pour plusieurs, donc pour la majorité, c'était au sein même de la politique. Donc, la haine, les chicanes, je fais un clin d'œil ici, les coups bas, les attaques personnelles de leurs homologues, donc des gens qui faisaient de la politique envers eux. Est-ce que ces gens-là doivent être un peu le résultat de ce qu'on souhaite en société? Donc, si ça ne part pas d'eux, est-ce que ça peut être demandé à la société? Écoute, on pourrait en débattre. Là.
C'est tellement bon ce que tu amènes parce que je pense que tous les politiciens et politiciennes ont une responsabilité de garder un discours civilisé pour ne pas justement venir agrémenter les haineux
et
sur les médias sociaux. Légitimer
ça.
Est le bon terme, exactement. Hey, j'ai Pierre-Luc Lachance qui me comptait. Putain, aime ou aime pas Pierre-Luc Lachance, comme ancien conseiller municipal dans Saint-Roch-Saint-Sauveur. Il était 4 ans avec Régis Labeaume, 4 ans avec Bruno Marchand, 1er janvier. Il est minuit le soir, là. Bonne année! T'embrasses ta blonde, t'es avec ta famille, t'es le kit.
Ta blonde ou ta sœur, ça dépend, demander à François Legault.
Ouais, c'est ça. Paf, paf, paf. 5-6 messages haineux qui rentrent. Je te souhaite une bonne année, mon crotté. Ça n'a pas de sens.
C'est vraiment particulier. Puis, tu sais, avant, il y avait quand même... Puis, faudrait en parler aux politiciens de la vieille garde. Mais il y avait un décorum un peu plus intense. Puis, les débats existaient, mais les attaques personnelles, peut-être moins... salace que ce qu'on connaît. C'est plutôt sur les idées que sur la personne. Si quelqu'un veut commenter, 88-971-1021. Mais c'est intéressant de savoir cette étude-là aussi par Catherine Fournier, mairesse de Longueuil. Sinon, lui, il s'est défendu ou du moins, il a expliqué son air bully. Parce qu'il y en a eu une, Régis Labeaume.
Non, moi, au début, j'étais énervé. Moi, je bougonnais. Puis en même temps, c'est à Québec, on avait Radio Poubelle. Là. Vous rappelez pas de ça? Là. C'était un jour à Québec. Les gens... se souviennent de ce que j'ai dit, mais ils ne se souviennent pas ce que mes adversaires ont dit puis comment ça se vivait à Québec, la radio poubelle. Tu sais, 14 ans de ça, là, je peux dire une affaire, faites être fort.
Mais ça vous manque un peu quand même.
Pas du tout.
Ça ouais. Y manque pas, mais ça il se manque... battait dans l'arène.
Ouais, exactement, ça y manque pas. Puis tu sais, c'est correct là, qu'il, ouais. qu'il parle des radios poubelles et qu'il dise ah, c'est difficile, tu le quittes. Il a entièrement raison. À Québec, par contre, je trouve que les gens dans les médias suivent beaucoup la politique municipale par rapport à d'autres villes. Ouais. Ça, je pense que c'est très positif.
C'est la même chose pour la radio, mais tu sais, il disait il y avait.
C'est ça.
Ça a changé aussi, oui. là, la radio à Québec, je dois dire. Vraiment. Il y a une nouvelle façon de la c'est faire. Ça. Pourquoi? Parce que c'était plus ça que les gens voulaient aussi. Donc, le changement de personnalité, puis là, je parle T'as pas raison. Des gens qui changent de personnalité. Je parle des gens derrière les mm-hmm. micros. Il y a eu un roulement.
Oui.
Il y a eu des grands porte-étendards de la communication, comment dire, captivante.
Qui ne sont plus sur la sphère radiophonique des zones hertziennes.
Et même, je veux dire, il y en a qui sont décédés, mais oui. ça vient avec un dessin qui se veut parfois avec... beaucoup de positifs, mm-hmm. mais un dessin qui peut être très négatif aussi.
Exactement. D'un autre côté, c'est un gars qui aimait bien débattre.
Écoute, Régis Labeaume, il n'en laissait pas pour les autres. Il a parlé aussi de ceux qui se présentent. Entre autres, il a fait un clin d'œil aux Hells Angels et aux fidèles religieux.
Mais ça, le problème, c'est pas que quelqu'un puisse poser sa candidature. C'est qu'il sent qu'il y a comme une voix pour lui parce que dans le fond, il n'y a pas grand monde qui veut faire le travail. Tu sais, c'est ça l'affaire. Puis le monde le sent que, tu sais, que... qui va faire, excusez-moi, mais ce maudit job-là payé pour des peanuts? Là,
mais est-ce que ces deux Hells Angels-là ou les fidèles
mouvements religieux... Remarque, ils peuvent garder l'ordre dans la cabane, je ne sais pas. Là,
non, non, mais est-ce qu'ils ont des chances de gagner?
Dans un quartier, on ne sait pas. Je pense que c'est impossible pour moi, mais qui sait? Peut-être que ce gars-là a des voisins. T'sais, je ne sais pas, là.
Ouais.
Mais juste le fait qu'il pose sa candidature, ça n'a aucun sens.
Et l'armée de Marie, là, au pouvoir, ça serait inquiétant. Ils possèdent beaucoup de propriétés. Ils ont beaucoup d'argent dans cette ville-là.
Ah, mais ils vont se couper le compte de taxes. C'est ça qu'ils vont faire. C'est peut-être ça, dans le fond. C'est pour ça qu'ils se présentent. Ils veulent payer moins de taxes parce qu'ils ont sur l'ensemble de leur propriété.
Pas fou?
Pas fou, dans le fond.
Carl qui écrit, j'étais pas sûr si c'était Régis Labeaume ou Denis Gravel. Non, non, c'était bien Régis Labeaume. Tout le monde en parle, mon Carl.
Ils font référence, je veux juste le dire, oui. là, une ancienne relation des Hells Angels qui a frayé avec les motards criminalisés dans les années 2000, là, qui veut faire table rase sur son passé puis devenir maire d'un village en Mauricie. Il s'appelle Claude Vallée.
Exactement. Donc, en effet, la politique, c'est un métier quand même qui est noble, qui doit être exercé par mm-hmm. des personnes qui ne sont pas en conflit d'intérêts. Et pour moi, ben, avoir été membre des Hells Angels, ben, c'est un conflit d'intérêts avec la politique. Là.
Est-ce que tout le monde a le droit à une deuxième chance? Il y a tellement de choses à débattre là-dessus. Et Régis Labeaume continue en disant il y a des conséquences au manque de candidats de qualité et c'est pas la première fois qu'il en parle. Dans les prises de parole que j'ai écoutées en audio aussi, Jeff, c'est vraiment, je pense, son cheval de bataille actuellement.
Regardez autour de vous, là, dans nos villes, puis est-ce que vous trouvez que... Bon, puis là, je veux pas faire offense aux candidats qui se présentent actuellement. Ils ont toute mon estime. Mais éventuellement...
Pas toutes, là. Il y en a une couple.
Ouais, une couple d'exceptions, peut-être, mais bon, on va se calmer là-dessus. Mais l'idée, c'est qu'éventuellement, la qualité des élus va diminuer. Quand la qualité des élus va diminuer, les mauvaises décisions vont se multiplier. Et quand ça arrive, quelque part, ça apparaît sur le compte de taxes, on va payer pour
ben oui.
ça. Alors, tu sais... Des belles têtes actuellement, des professionnels, des ingénieurs à retraite aux 63 ans, on n'en veut plus. Quasiment qu'ils se présentent aux élections. Puis c'est le genre de monde dont on a besoin. Hey, pourquoi tu vas te faire emmerder pour que tes enfants se fassent, excuse-moi,
ben oui,
blaster ces réseaux sociaux, que ton cousin ne peut plus te parler parce que tu augmentes les taxes? C'est ça. Puis aujourd'hui, c'est rendu... C'est pire. Ce qu'on a compris dans le documentaire, il y a, oui, les incivilités de l'extérieur, mais les incivilités... à l'interne, sont rendus quasiment pires que ce qui vient de l'extérieur. Quand c'est rendu à l'interne, que c'est tes collègues travaillent, c'est plus vivable. Puis c'est ça qui se passe et beaucoup, à beaucoup, beaucoup de places.
Il a été salin et vinaigré, et je l'ai dit souvent en ondes. Je trouvais qu'il avait fait son temps parce que l'attitude n'y était plus. Il n'y avait pas beaucoup d'écoute non plus à la toute fin de son mandat, Régis Labeaume. Est-ce la séparation? Est-ce la complexité? Peu importe. Il était rendu aigri, OK? Mais là, tu as tellement raison. Oh. Et là, je ne veux pas pointer des candidatures en disant qu'elles sont pas bonnes ou autres, mais on ne doit pas se diriger, Jeff, c'est ma plus grande crainte, à ce que la politique devienne tu sais, on dit, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de... Mais que ça devienne ça. Par ouais. le désintérêt collectif, mais également la candidature spectacle, la candidature vide, l'ego, en fait, qui veut se présenter versus l'idée qui veut se présenter. Ça, ça m'inquiète.
En effet, puis la politique, c'est un tout, c'est pas juste un projet. T'sais, Antonine nous le répétait bien tout à l'heure, justement, avec à Québec, c'est pas juste le tramway, l'enjeu. Là. Il y a plein d'autres choses à gérer dans la capitale nationale. Et Régis Labombe parle, justement, de personnes peut-être plus âgées qui s'intéresseraient à la politique, des ingénieurs, tout ça. Mais moi, c'est la jeunesse aussi. Je pense toujours à la jeunesse. Puis je suis content de voir que, quand même, à Québec, à l'heure actuelle, il y a plusieurs candidats qui émanent de la jeunesse. On a eu Maggie Gagné de l'équipe de Sam Hamad en entrevue. Je pense à Hélène Lepage aussi qu'on a eu.
Alicia Despins, longtemps.
Exactement, Alicia Despins, qui était la plus jeune, justement, de l'histoire. Parce que ça prend ces jeunes-là aussi pour avoir une vision sur l'avenir. Oui. Et si on est trop virulent, si on est agressant, et ça, je parle des médias sociaux, les propos haineux et violents, bien, ces gens-là ne voudront plus se présenter. Mais puis là, ça va être quoi la vision de Québec?
Qui va vouloir ça? Ça va être une personne qui a un égo surdimensionné pour qui ça ne fait aucune vague, aucun fracas de se faire insulter de cette manière-là.
C'est ça.
Là.
Mais est-ce que cette personne-là va être en mesure de prendre les bonnes décisions? C'est une bonne question. Tu vois, une personne nous écrit, un auditeur ou une auditrice, avant, tu n'avais pas accès au personnel de la politique. Maintenant, 2-3 clics et tu peux les atteindre. Je ne pense pas qu'il y ait plus de haine, mais maintenant, c'est tellement facile de les rejoindre. C'est un excellent point, honnêtement. En effet, peut-être bien que le monde chiolait dans leur salon avant, mais ils ne disaient pas justement au conseiller municipal, Plaster, on peut y écrire.
Mais je trouvais que je trouvais simpliste le fait de se dire ben, l'écran fait en sorte qu'il y a une distance. Mais ben, c'est vrai. Moi, je pense, honnêtement, que c'est arrivé 2-3 fois dans ma vie ou sur les réseaux sociaux, j'ai vu quelqu'un qui n'était pas très loin de moi ou qui était, bon, à 3-4 personnes interposées, écrire une insanité puis de me dire « Ben voyons, cette personne est tellement smart dans la vie. » Donc, je trouvais que c'est simpliste de parler d'écran, mais en même temps, le décorum, on l'a perdu aussi. Il y a quelque chose dans... Jeff, si je n'ai qu'à pas te respecter, on pourrait quand même travailler ensemble, à moins que tu sois contre ma morale et mon éthique au travail, puis que tu aies des propos.
Ça t'amène un bon point. T'sais, les valeurs sont tellement importantes dans le travail d'équipe.
Il y a le respect aussi envers l'autre. Là. C'est pas parce qu'on pense pas pareil que t'es moins estimable que je le suis. Là.
En effet.
Régis Labombe a fini, en fait, son commentaire sur quelque chose qui nous... Efforts intéressants. C'est quoi sa vision? Même s'il ne veut pas jouer à belle-mère, il le fait quand même, monsieur Labombe, permettez-moi de le dire. On a parlé de la campagne 2025 à Québec, à tout le monde en parle hier.
Bouse vierge, c'est décourageant. C'est notre capitale nationale. Mais écoute, j'essaie de... Il me reste quelques jours là, à ne pas me parler de sa campagne de Québec. Je vais résister encore. Là. J'ai le goût d'explorer quand je vois ce qui se passe. Mais gars, la belle-mère va se taire, OK? Mais j'ai le goût, là, ça n'a plus de sens. Là,
mais je te pose une question.
La chance habite à Lévis. Il y a le disco mobile, il veut devenir maire de la ville. On ne sait plus ce qui se passe. Ça n'a plus de bon sens. Là, c'est, excuse-moi, ça me fait plaisir de le dire.
OK, mais
il
sans pas le dire. Répondre, si je te pose des questions, tu clignes des yeux, est-ce que c'est bon, ça? Est-ce que tu sais pour qui tu vas voter?
Oui.
La même personne qu'il y a 4 ans?
Non, ce serait impossible.
Ce serait impossible.
Non, je les aime tous.
Ah oui, OK.
Il faut que je comprenne que je les aime tous.
Oui.
Jusqu'au lendemain des élections.
Hey, ça y a des... Il n'a pas été tendre envers Stéphane Lachance, là? Ça...
Mais c'est ça. C'est pas tendre ou c'est vrai?
Ouais, mais exactement.
C'est des faits ou c'est de la critique?
Mais t'as raison. C'est... T'as raison parce que on débattait justement dans Marceau le matin avec le fait que Karine Gagnon avait écrit que Stéphane Lachance se prenait pour un autre, en disant « Hey, Sam Hamad, c'est toi qui vas se tasser, c'est moi qui vais prendre la place », en disant « Voyons, Sam Hamad, c'est un ancien ministre de la Capitale nationale, c'est un ancien président du Conseil du Trésor. » Puis moi, je disais, ben, tu sais, quand tu compares les CV, en effet, il y a une différence.
À 16 ans, non, j'étais majeur. Ish. Je dansais ses bars. Ses caisses de son d'Agobert. Ce sont des faits.
Ben
c'est
oui.
pas crédible pour faire commentaire politique.
En effet.
À 31 ans, je suis rendue une autre personne. Je suis, je suis ailleurs. Les caisses de son, je les laisse aux jeunes. Faut le faire.
Ben oui.
Faut que jeunesse se fasse. Mon point est,
vas-y
ça
donc.
Reste un fait. Si,
t'as raison.
Si je me présentais en politique puis tu vois, ben attends, c'est une caisse de son, moi, t'es tout croche. Ouais, OK.
Ouais.
Qui suis-je maintenant?
C'est
Stéphane
ça.
Pourrait, Stéphane Lachance, pourrait se défendre comme ça. Oui, oui, mais tu sais, ça fait partie de mon pedigree. Oh, j'ai appris telle chose. Mais ça peut être aussi une critique.
En
est-ce
effet.
Qu'il a le CV pour être à la mairie?
En effet, c'est un excellent point. Puis on revient à sa dernière campagne fédérale quand on parle de ça. CV de Mark Carney versus le CV de Pierre Poilievre.
Ça reste que c'est un papier qui se vaut.
Oui, et ça reste que ça fait partie de la réflexion des gens quand ils ont voté pour le poste de mairie.
Et on n'est pas obligé d'être strict là-dedans. Il y a des gens qui ont peu d'études et qui font partie des personnes les plus brillantes qu'on peut côtoyer. Par leur raisonnement mental, par leur travail terrain, par l'humanité derrière, par la saisie d'informations qu'ils sont capables d'avoir, mais qu'ils n'ont pas eu le parcours scolaire qui allait de soi pour toutes les raisons. Que ce soit monétaire, l'intérêt, ils n'ont pas trouvé leur voie. Ça ne doit pas tout faire. Mais ça ne doit pas tout non plus être écarté.
Tu as entièrement raison. C'est des paroles de grande sage que tu viens de faire.
Non, ça doit être l'Kilimanjaro.
Non, mais honnêtement, je partage ton opinion à 100%. C'est important de voir ce que les gens ont comme pédigree, surtout pour le poste à la mairie de la capitale nationale. Et c'est pas rien, là. On est la capitale nationale du Québec. On est la deuxième plus grande ville au Québec.
On a des enjeux extrêmement importants à régler.
On a des enjeux de mobilité, de logement.
De futur, n'en déplaise à certains.
Okay, n'en déplaise à Hugo Langlois tantôt. Excellent point, Pascal CV, je te l'accorde. Il y a Simon qui écrit « Bien rattrapé CV, le 16 ans, le 18 ans. » Oh, moi, je l'avoue, je suis rentré dans les bars avant 18. Okay, je vais vous l'avouer. Mais c'est ça. Alors, non, c'est un excellent point que tu amènes. Il faut prendre en considération ce que les gens ont fait dans leur passé, ce que les gens ont comme connaissance, ce que les gens ont dans leur pédigree, justement.
Puis tu sais, ces erreurs-là, là, ça se vaut aussi.
Ben oui!
Moi, je pense qu'une personne qui prône le fait qu'il n'a jamais fait d'erreur ou qui...
Oh non, moi, je le crois pas.
C'est pas une bonne personne à une
candidature de gestionnaire. Quand j'étais gestionnaire, puis là, je faisais des entrevues. Et là, je disais, c'est quoi ton pire défaut? Ah, oh, moi, je suis perfectionniste. Non, trouve-moi un autre. On est tous perfectionnistes. Trouve-moi un autre. Et là, des fois, la personne était comme, ah oh, ouais, faut que j'en trouve un autre. Ouais, dis-moi un vrai défaut, là. Tu sais, un vrai sur lequel, si je suis ton gestionnaire, je vais savoir sur quoi travailler. Puis là, il disait, ah ouais, j'ai le droit d'avoir des défauts.
Ça,
oui.
Ça peut être une force pour ton équipe aussi, ça parce que ça se peut que je te mette avec quelqu'un de complémentaire, tu sais.
Tellement. Donc, Simon qui écrit « Réussir ou apprendre », ouais, en effet.
C'est bon, ça.
Puis c'est vraiment ça, tu sais, les erreurs, les points à améliorer dans notre personnalité font de nous des meilleurs individus en bout de ligne.
On nous dit qu'un professeur de théâtre qui est devenu premier ministre au Canada et maintenant qui sort avec Katy Perry.
Oui, c'est ça. Mais il y en a plusieurs, justement, quand ils repensent au professeur de théâtre, ils disent « Hey, Kim, il nous a endettés. Il a doublé la dette du Canada.
Hey, » je voyais dans les commentaires de lancement de chanson de son fils, là, parce que c'est un rappeur, là, je finis là-dessus. Il y a des gens qui écrivaient « Mon père, il tient. » C'est très drôle. Mais c'est un peu dans haine.
Ouais, exactement. On fait une courte pause à l'émission d'Angers. Merci beaucoup, Pascal CV, pour cet excellent résumé du passage de Régis Labombe. À tout le monde en parle. J'apprécie énormément. Les auditeurs et auditrices également appréciés.
On a hâte à ses commentaires après campagne électorale parce qu'il semble avoir du stock à dire pour la suite.
On va pas l'inviter ici en onde. C'est Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine et ex-enseignant au Cégep Garneau qui s'installe en studio avec nous par la suite. On va notamment parler de ces manifestations No King anti-roi pour Donald Trump et sa réaction sur Truth Social. As-tu vu ça passer, Pascal?
J'ai hâte d'en parler.
Oui, exactement. C'est assez spécial pour un président des États-Unis.
Je ne suis plus surprise.
Je prends le mot spécial pour rassigner un tantinet d'être poli. On revient immédiatement. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 101. Précisément 13h15. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, c'est l'émission On en jase. On va avoir l'ex-enseignant Pascal en politique américaine, en histoire des États-Unis du Cégep Garneau, Luc Laliberté, avec nous dans quelques instants.
Mais là, tu me fais une surprise parce que je savais pas qu'il était en personne.
Oui,
j'adore. C'est la première fois que je le rencontre, mais on a comme travaillé ensemble. Ça fait quoi, 12 ans maintenant que je fais de la radio?
Ça, c'est le fun.
Tout le temps à distance. Bon, ben, bonjour.
Ouais. Alors, venez nous voir sur twitch.tv, /BLVD/FM. Interagissez également. On va parler de Donald Trump. Ça soulève toujours les passions. 418-971-1021. Mais parlant d'ex-enseignant, Pascal CV, toi, tu as un ex-enseignant de mathématiques à la Courvilloise qu'on adore. Puis qui lance un podcast à soir.
Moi, je l'ai connu en chimie. Maintenant, il est en maths, effectivement. C'est le prof d'en cause. Vous le connaissez, collaborateur à Boulevard 101. Mais il a assurément commencé à faire un podcast qui va attirer l'attention. Ça s'appelle Classe à part. Tous les lundis, 19h, c'est avec Sylvain d'en cause. Il y a des invités pas piquer des verres. Là, on parle de grands enjeux éducatifs d'aujourd'hui puis de demain. C'est des diffusions très intéressantes. Entre autres, le podcast de ce soir, c'est sur la santé physique chez les jeunes. Oh, et on parle avec Joël Beaulieu. Vous l'avez entendu sur les ondes de Boulevard 101. Chaque fois, c'est un succès. Vous en redemandez, vous demandez ses coordonnées. Si ça vous dit rien, ben branchez-vous. 19h, c'est un spécialiste en motricité et en pédagogie sportive. Est-ce que nos enfants sont assez ferrés en ce moment au niveau de leur motricité, de leur corps, de se mouvoir?
Il y a tellement du retard chez les jeunes enfants à l'heure actuelle depuis la COVID en raison du temps écran.
Et ça perdure autant au primaire, au secondaire, puis l'offre parascolaire en sport, inter, intra, les concentrations sportives au primaire, au secondaire. C'est quoi le rôle de l'école là-dedans, mais surtout, c'est quoi le rôle des parents? Et c'est ce soir, 19h, podcast Classe à part. En passant, c'est présenté par la Caisse des Jardins de l'Éducation. On vous accompagne avec constance et engagement. On le nomme parce que sans eux, on n'a pas de podcast.
Ne manquez pas ce podcast très intéressant avec le prof d'en cause que vous entendez sur nos ondes à quelques occasions. Luc Laliberté nous fait le bonheur de venir nous voir en studio aujourd'hui. Comment ça va, Luc?
Ça va particulièrement bien. Et je peux constater, moi aussi, que Pascal CV n'est pas une image générée par l'IA sur les réseaux sociaux.
Exactement, c'est bon, ouais.
C'est bel et bien une animatrice en studio. Donc, très content, Pascal, de te rencontrer. Jeff, ben, ça fait quelques fois.
Oui, exactement.
Première fois avec toi, très heureux.
Cool, merci beaucoup, Luc. Luc, est-ce que tu étais un fan du film Top Gun?
Les deux.
Les deux?
Le premier, c'est un classique de jeunesse. L'autre, ben, j'assume mon âge, c'est plus récent. Mais oui, dans les deux cas.
Dans les deux
mais
cas.
Je pense que tu sais, pas, je sais pourquoi tu me demandes.
Oui, ben exactement, parce que Donald Trump semble être un grand fan. On écoute ce qu'il a mis sur son réseau Truth Social. Là, c'est Jet King qui part. Ah, il y a des manifestants, mais là, c'est le gros caca qui se déverse sur les manifestants.
C'est épouvantable.
Luc, est-ce qu'on est vraiment rendu aux États-Unis à se diviser de cette façon et à empêcher le droit de manifester, qui est un droit fondamental?
Je pense que tu as quelqu'un dont la base est inébranlable, qui sait qu'il y a une grande polarisation aux États-Unis, que des gens ne vont pas voter démocrate, et qu'il a abandonné toute velléité de rassembler la population. Donc, on a quelqu'un qui le fait parce qu'il a le pouvoir, parce qu'il a l'indépendance et parce qu'il peut le faire. Ensuite, ben écoute, je l'ai vu, je suis abonné à Truth Social, donc je l'ai vu quand il l'a diffusé. Est-ce qu'après 10 ans, je suis vraiment étonné? Il a fait fort, soyons honnêtes, mais non.
Ça, malheureusement, t'es pas étonné.
Malheureusement, voilà, et c'est je pense, une des choses dans les 10 dernières années qui me trouble, c'est qu'on on en est rendu presque à banaliser ça. On se dit, OK, c'est du Donald Trump.
Mais, on fait avec, mais on devrait pas.
Ben, il faut prendre un peu de perspective et se dire, reculons 10 ans en arrière. N'importe quel chef d'État, et surtout un chef d'État là, d'une nation démocrate, aurait fait ça. Je veux dire, un, on lui suggère d'aller chercher des conseils médicaux, puis deux, je veux dire, c'est la fin d'une carrière politique.
C'est la
de manière
destitution,
abrupte.
Là.
C'est, et là, on est rendu à... On fait avec. Et pour ses partisans, ben ils vont pas partir à cause de ça.
Donc, au contraire, ils sont morts de rire.
Et dans certains cas, la polarisation est telle qu'on est content qu'il le fasse parce que c'est ce qu'on pense des gens qui sont dans la rue. Donc, on a vraiment déplacé la fenêtre, ce qu'on appelle parfois pour les amateurs de politique ou de théorie, la fenêtre d'Overton. Ce qui est acceptable dans le débat public, bien, on l'a déplacé maintenant. Et des choses qui étaient, il y a 10 ans, inacceptables, sont pas nécessairement plus acceptables, mais en tout cas, c'est tolérable et c'est pas assez pour mettre fin à la carrière politique de quelqu'un.
Et Luc, c'est vraiment, il y en a qui pourraient dire, qui s'intéressent à la politique américaine depuis peu, dire, ben c'est le courant républicain, le courant démocrate est différent, mais il y a eu de grands présidents républicains qui ont jamais bercé là-dedans. Je pense à Reagan, je pense à Nixon.
Et qui sont en désaccord.
Mais il y en a aucun. J'explique. C'est une des choses que j'explique souvent parce qu'on me demande comment tu trouves ça, commenter la politique à l'époque de Trump. Puis je disais, c'est un très, très beau défi, mais c'est un défi difficile parce qu'on est ailleurs. Mm-hmm. Pendant des années, j'étais capable d'incarner un démocrate ou d'incarner un républicain. Je l'ai fait en classe pour défier les étudiants. Là, quand on sent qu'ils sont plus campés idéologiquement, je ne peux pas décemment me camper comme partisan de Trump ou comme Donald Trump. On est ailleurs. C'est la théorie du chaos. La révolution est tellement importante dans la tête de ces gens-là qu'on est prêt à tout jeter à terre. tout jeter à terre, c'est romantique. Hein? Dans l'histoire, la révolution, c'est toujours des idéaux, c'est romantique.
Il va la révolution.
Voilà. Sauf que tout jeter à terre dans un pays aussi puissant que les États-Unis, il va y avoir littéralement un prix à payer.
Mais c'est difficile, Luc. C'est extrêmement difficile, même pour nous qui commentons l'actualité, parce que automatiquement, on se fait. Bon, moi, je l'ai déjà dit, c'est pas le mien pour toutes ces raisons-là. Je ne comprends pas qu'il garde une crédibilité quand pour lui, sens du spectacle, prime sur une annonce présidentielle et sur la crédibilité que doivent avoir les États-Unis en ce moment dans le climat géopolitique et social mondial. Ça me dérange beaucoup. La seule chose, c'est que chaque fois que je parlais de Donald Trump, c'est comme si j'étais une anti-Trump au point où tout ce qu'il va faire, je vais détester. L'affaire, c'est qu'il ne me donne pas beaucoup de choses dans mon assiette, tu sais.
Voilà. Et la semaine dernière, Pascal, la semaine dernière, dans les 10 derniers jours, par exemple, quand on a annoncé le fameux cessez-le-feu, qui pouvait être contre ça? On peut analyser ce qui s'est passé avant, il y a des gagnants, il y a des perdants, mais le président intervient et par sa seule intervention, on est capable d'avoir un cessez-le-feu pour un conflit duquel on ne voyait pas l'aboutissement. J'étais un des premiers à dire, enfin, on peut... Mais c'est rare qu'il nous donne des choses de cet ordre-là, donc qui peuvent nous faire dire, bien, écoutez, c'est plus gauche ou droite. Il vient d'obtenir quelque chose où les autres ont échoué pendant des années.
Et on dirait la même chose pour un démocrate qui fait de la politique de cette manière.
Voilà. Parlant du cessez-le-feu, Luc, il y a eu des attaques quand même en territoire de la bande de Gaza, en territoire palestinien, cette fin de semaine. Voici ce que Donald Trump avait à dire par rapport à cela.
Well, we're going to have to see what's happening. We want to make sure that it's going to be very peaceful with Hamas. And as you know, they've been quite rambunctious. They've been doing some shooting, and we think maybe the leadership isn't involved in that. You know, some rebels within. But either way, it's going to be handled properly. It's going to be handled toughly, but properly.
Is the ceasefire still in place?
Yeah, it is. Yeah, it is.
Est-ce que le cessez-le-feu est encore valable présentement, Luc, dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas? Donald Trump parle de rebelles. Je veux pas mettre de côté l'histoire derrière, justement, ce moment historique-là, derrière ce cessez-le-feu-là, mais ça t'a se demandé si on s'est pas bombé le torse un peu trop vite.
Ça, c'est, tu vois, autant je me réjouissais du cessez-le-feu et je disais pour... Parce qu'il y a Donald Trump là-dedans, mais il y a une vingtaine de pays qui est impliqué dans le cessez-le-feu. Entre autres, il fallait qu'on ait des joueurs à l'extérieur pour exercer des pressions sur le Hamas. Donc, je me réjouissais du cessez-le-feu. Maintenant, le fameux plan de paix, parce que c'était, à mon avis, très ambitieux. Peut-être que c'est un optimisme de circonstance quand on arrive à obtenir le cessez-le-feu. Mais je me disais, le plan de Donald Trump, qui avait 21 points, qui est passé à 20 points par la suite, le premier point posait déjà problème. Donc, quand on parlait d'une paix, puis d'une paix presque éternelle, c'est à peu près les termes qu'il avait utilisés, là, je me disais, c'est prononçons un point à la fois, et que le Hamas dépose les armes, ça semblait déjà particulièrement ambitieux comme objectif.
Oui, puis ils ne les ont pas déposés, parce que dès qu'il y a eu le cessez-le-feu, il y a 6000 personnes du Hamas qui sont sorties des tunnels avec des armes, puis on se dit, on reprend possession.
Et là, on va jouer. Ça, c'est intéressant, parce que c'est des choses qui ne sont pas forcément sorties sur la place publique. Là, on a commenté quelque chose d'immense, puis on ne va pas dans le détail. Le Hamas est resté quand même comme force de contrôle ou comme force de stabilisation. Ils avaient le droit de le faire. Donc, à quel point maintenant on va juger qu'ils sortent de ce rôle-là et qu'ils débordent? Parce que ce qu'on a eu littéralement de la part du Hamas, c'est des exécutions. On a éliminé des rivaux. Et ça va être un autre grand défi. Imaginons que le Hamas dépose les armes. Qui va gérer ça, cette région-là? Parce qu'on veut éventuellement venir à négocier une vieille idée. On ne doit pas ça aux dernières semaines, mais l'idée d'une solution à deux États, qu'on ait Israël, qu'on ait un État palestinien, mais le Hamas, on va en faire quoi? Et ça, c'était le premier grand défi. Et c'est là où c'est important, les autres joueurs dont je parlais tout à l'heure, c'est que la présence américaine, la force américaine, puis les ententes commerciales qu'on souhaite développer, parce qu'il y a de l'argent derrière ça, il ne faut pas le cacher, Trump a besoin aussi que ces joueurs qui viennent de pays arabes, musulmans, que ces joueurs-là continuent à exercer des pressions sur le Hamas, parce que ce sont souvent eux qui protègent le Hamas quand le Hamas doit fuir ou qui doit aller se réfugier, que ses dirigeants partent pour l'extérieur. Mais oui, on a été très, très optimistes en parlant de paix, puis moi, je me disais, allons-y un point. à la fois.
Le Hamas est un électron libre en termes de formation qui a utilisé quand même beaucoup de citoyens comme char à canon. Hein. Ils ont épargné personne, même pas ceux qui croyaient être épargnés. Et ça se voit beaucoup, cette révolte guerrière-là, électron libre, la guerre n'est plus ce qu'on a connu dans certaines régions du monde. On fait à notre tête, puis on est beaucoup porté par des idéologies religieuses, ce qui permet pas des fois d'avoir une grande réflexion pragmatique, hein, rationnelle. La religion, c'est beaucoup émotif, veut pas, et ça décime des communautés. Avec nos yeux d'occidentaux, assurément qu'on a l'impression d'être meilleur, hein, parce qu'on veut la paix dans le monde, on veut les droits humains, on veut... Mais on peut pas se dire qu'on a la meilleure façon de faire, parce que face à nous, t'as d'autres façons de voir le monde, et qui est beaucoup justement l'idée par la religion, puis l'économie aussi de certains secteurs. Comment s'annonce la suite quand auparavant, cette idée occidentale-là des droits humains de prônait, mais maintenant les clans ont changé, les partenariats mondiaux ont changé, les pays alliés, ça a changé. Comment on voit la suite? On peut-tu la voir?
Une des erreurs que les Occidentaux, puis j'aime bien que tu nous amènes là, une des erreurs que les Occidentaux ont répétées, que les Américains ont répétées, c'est de débarquer dans un pays avec nos idéaux, qu'on pense être de grande valeur universelle, mais on pense que par la force, par les armes, on est capable d'inverser ou de modifier des centaines d'années, puis parfois c'est des milliers d'années d'une forme de pensée ou de façon d'agir. Comment on peut détricoter une société? Les Américains nous l'ont montré en Afghanistan, les Américains nous l'ont montré en Irak, ils l'avaient montré précédemment au Vietnam. Il y a une incompréhension des valeurs ou de la structure d'une société, puis c'est pas par les armes à court terme. Si on peut espérer quelque chose, souvent c'est à long terme. Puis à long terme, pour un pays démocratique, c'est le pire. Est-ce que les Américains pouvaient expliquer à leur population qu'on allait laisser des soldats mourir, des soldats américains, parce que ça va prendre une génération ou deux générations? L'Afghanistan, ça a été un cas assez exceptionnel. Ce qu'on peut faire valoir dans ce temps-là, puis je regarde le jeu des alliances qu'il y a actuellement, puis s'il y a un espoir que ça se stabilise, et s'il y a quelque chose que Donald Trump a fait de bien, c'est de faciliter les échanges entre tous les joueurs ou entre tous les partenaires dans cette région-là. Ils sont reliés par l'économie, par une zone économique, entre autres. On a voulu normaliser les relations entre Israël et ses voisins, ce qui était, à mon avis, un gros gain, parce qu'au plan de la sécurité, si ces pays-là se parlent, si ces pays-là échangent, on va protéger les échanges éventuellement. Mais ça non plus, ça ne se fait pas dans un claquement de doigts. Et j'espère que Donald Trump ne va pas se distraire dans ce dossier-là, parce que la politique étrangère, ce n'est pas payant en politique intérieure. Si les Républicains gagnent pour les élections de mi-mandat ou qu'ils gagnent en 2028 quand on va remettre la présidence en jeu, c'est pas la politique étrangère qui va faire gagner. On le dit souvent, là, c'est une vieille phrase d'un ancien conseiller de Clinton, « It's the economy, stupid ». M. Biden l'a appris par la force récemment encore. C'est, on regarde comment ça va en politique intérieure. Est-ce que les gens mangent? Est-ce que les gens paient leur loyer? Est-ce qu'on est arrivé à contrer l'inflation ou à hausser le niveau de vie des habitants? C'est souvent là que ça va se jouer, républicain ou démocrate. Donc, tout ça pour dire, j'espère que Donald Trump ne va pas se laisser distraire, parce que parfois, c'est volatile un peu. Il y a beaucoup à gagner pour les Américains dans cette région-là, mais pour les partenaires impliqués. Et de là, toute l'importance du rôle du Hamas et de l'influence que certains pays peuvent avoir sur le Hamas.
On fait le tour de la politique américaine avec Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine pour le groupe Québécois, également sur nos ondes à Boulevard 102.1 et ex-enseignant en politique américaine, histoire de la politique américaine au Cégep Garneau. Luc, je fais appel justement à ton côté historique. C'est une question de Martin, un auditeur. C'est drôle parce que les Américains, ce qu'ils font, c'est d'imposer leurs idées par la force. Les Européens faisaient la même chose pendant la Renaissance. Comme quoi, plus ça change, plus c'est pareil. T'en penses quoi du commentaire de Martin?
Je pense qu'il a raison. C'est la loi du plus fort. Ce qui a souvent sauvé les Américains, c'est la culture américaine. Parce que tu vois, ça c'est drôle, c'est encore plus intéressant. Ça me fait décoller dans plein de directions.
Je savais que t'aimerais ça, cette question-là.
C'est que les Américains ont toujours joué de deux forces en politique étrangère. Et Donald Trump vient d'en laisser tomber une. C'est-à-dire qu'on a joué depuis la Deuxième Guerre surtout, sur la force militaire. Mm-hmm. On est les plus forts. Et pendant un temps, on a été tout seuls les plus forts. Ce que peuvent plus faire les Américains, jouer seuls, en solo, ils ont besoin de jouer en équipe maintenant au plan militaire. C'est encore une très grande force. Mais à la seule force militaires, ils étaient capables de joindre ce qu'on appelle le « soft power ». L'aide internationale, la culture, les arts. Et il y a de grandes valeurs américaines qu'on peut facilement vendre et qu'on peut facilement véhiculer par le cinéma américain, par exemple. Donc, les Américains sont une des rares forces qui ont bien su jouer des deux.
Mais Top Gun, c'est un exemple.
Voilà, exactement. Donc, on peut jouer d'un côté sur la seule force militaire, mais l'autre, quand je disais que Donald Trump a arrêté ça, c'est qu'on avait USAID ou USAID, qui était de la distribution de services à l'international, vaccination, soins médicaux, alimentation, etc. Ça, c'était une force armée. Mais pas avec des armes pour tuer. On a littéralement sauvé des vies, puis on avait de très généreux budgets, et ça aidait certains pays en Afrique, par exemple, à se lier aux Américains. En faisant ça, ce que font les Américains, c'est céder le terrain aux autres. Et si on regardait en Afrique, par exemple...
La Chine prend beaucoup de place, je pense.
Je l'ai constaté en allant en Tanzanie, puis j'ai posé des questions là-dessus. Voilà. On peut en reparler. Ben, Jeff, j'ai mis ça de côté.
Content. Hey, on va en reparler certainement.
Vous savez que je parlais là juste pour le Kilimanjaro, autant qu'ailleurs.
Mais tu vois, tu ajoutes une expérience récente terrain à ce que je suis en train de dire un peu plus au plan théorique. Mais c'est qu'on laisse le terrain vide. Et le vieux cliché, c'est la nature horreur du vide. Mm-hmm. Je pense à l'Afrique, c'est la Russie, beaucoup, qui a pris la place. On a préféré en Afrique, c'est tout dire, là, des vaccins russes pendant la pandémie aux vaccins américains. Et pourtant, au plan scientifique, il n'y avait pas de comparaison entre les deux. Mais on avait plus confiance dans les Russes qu'on en avait pour les Américains. Et on va ajouter à cette perte de terrain-là des Américains en se retirant. Mais donc, tout ça pour dire, est-ce qu'on impose nos valeurs quand on est aussi influent que ça? Oui, et c'est un des gros avantages qu'ont encore les Américains sur les Chinois. Les Chinois vont y aller au plan économique, ils vont y aller par les infrastructures, mais on se sent moins attiré sur la scène internationale par les valeurs de la société chinoise que par, ben, jusqu'à maintenant, la mm-hmm. société américaine.
Mais quand
donc,
t'arrives
on laisse beaucoup de terrain à la Chine. Oui. Donald Trump fait le jeu de la Chine au moment où on se parle.
Et en Afrique en ce moment, ben, on ne parle pas de l'Afrique du Nord où on va mettre Tunisie et tout ça. On va vraiment aller dans l'Afrique noire, dans l'Afrique où on manque beaucoup de ressources. Quand tu as des gens qui arrivent et qui disent « on va vous construire des hôpitaux, des écoles, des... » Puis décider ça, tu fais « wow, quel messie! » Au bout du compte, on va te demander quelque chose, par exemple. Et là, la force du pouvoir va y être. Puis là, on parle de mines, on parle de ressources, on parle de main-d'œuvre, on parle de milices peut-être à un moment. Là, on est dans les spéculations, mais tu ne donnes pas à ton voisin qui n'a jamais rien fait pour toi quelque chose sans espérer. Ça peut être juste un bon voisinage, une tondeuse une fois de temps en temps, mais ce qui se passe en Afrique est hautement intéressant et important pour la suite des choses.
On parle de métaux, de terres rares, il y a des ressources.
Pour l'agriculture, là, c'est extrêmement riche en Afrique.
Voilà, et c'est là, moi, où je me suis permis de critiquer l'actuelle administration américaine en disant « attendez un peu ». Vous sacrifiez une des choses que vous faites le mieux sur la planète actuellement sous le prétexte de coupes budgétaires. Puis c'est vrai qu'on investit beaucoup là-dedans, mais ça leur rapporte beaucoup plus que ce que ça coûte.
Mais c'est pas ingrat.
C'est pas ça qu'on vend.
C'est pas ingrat pour les Américains. Puis là, je comprends un peu Donald Trump parfois dans cette ère d'aller-là, surtout dans un genre de guerre économique qu'on connaît au Canada. Nous, on est sous-développés pour nos entrepreneurs, pour ci, pour ça. Tellement de bâtons dans les roues qu'on a préféré faire affaire ailleurs parce que ça coûtait moins cher, parce qu'on n'a pas développé cette économie-là sur tous les pans. Mais ce n'est pas ingrat d'avoir cette pression-là de régler des conflits internationaux, de toujours être la première affaire militaire qui va arriver sur le terrain. C'est pas... Non,
parce que tu en tires profit.
Quand tu joues bien tes cartes.
Quand tu joues bien tes cartes, tu en tires profit. Et tu vois, j'écoutais, c'est drôle parce que c'est un bout de fiction, mais ça rejoint la réalité. J'écoutais la série de Diplomate sur Netflix.
Je pense que c'est vraiment bon, okay, ça.
Ouais. Écoute, moi, j'adore. En tout cas, moi, je suis mordu. Il faut dire que je suis en amour avec Kerry Russell.
Ça aide. Est-ce qu'on accroche dès l'épisode 1? Il faut laisser du temps.
Ah, moi, je te dirais les deux, trois premiers épisodes, puis après, tu enfiles.
De Diplomate sur Netflix.
C'est la troisième qui a été déposée.
Puis qu'est-ce que ça te dit, cette série-là, mais Luc, par rapport au réel?
Cette série-là, disait, à un moment donné, il y a le vice-président des États-Unis qui discute avec le premier ministre, on est au Royaume-Uni, puis où il discute avec sa femme, qui, c'est drôle parce qu'on a le vice-président qui est l'époux de l'ambassadrice des États-Unis, et l'ambassadrice dit « oui, mais là, il nous déteste ». Il dit « oui, il nous déteste jusqu'à la prochaine crise ». Donc, on va toujours avoir l'avantage. Nous, on a l'avantage d'avoir quelque chose à leur offrir. Donc, on sait qu'on va être détesté par moment, mais quand ils vont
un
avoir
gros avantage
besoin,
de protection du territoire.
Bien, tout à fait. Parce que les États-Unis, c'est de ça que joue Donald Trump, entre autres, avec les fameux tarifs. C'est que ça demeure une très, très grosse économie et un très, très gros marché. Les Américains produisent beaucoup moins depuis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mm-hmm. C'est une puissance qui produisait, la plupart des biens de la planète. Maintenant, ils consomment. Mais c'est ce qui les rend très intéressants, entre autres pour la Chine. La Chine a un rôle compliqué parce qu'on veut le marché américain pour nos produits aussi. Ça demeure un très, très gros marché qu'on ne peut pas ignorer. Puis, ben, malheureusement, nous trois, comme Canadiens ou Québécois, ben, on sait qu'on peut difficilement se passer de ce marché-là.
Luc Laliberté, merci de nous avoir fait le bonheur de t'avoir en présence en
écoute,
studio.
C'était une occasion que je ne pouvais pas manquer. J'étais libre, puis j'adore être avec vous autres en studio plutôt que derrière l'écran.
Toujours très, très, très intéressant lorsque tu viens nous parler. On a beaucoup de commentaires positifs par texto. Alors, merci, Luc, pour cette grande sagesse et cette grande expérience que tu as.
Bonne journée à vous deux.
Viens quand tu veux, on n'est pas sorteux.
Non, exactement. On fait une courte pause. Par la suite, connaissez-vous Alain Fortin? Eh bien, c'est la personne qui se présente comme candidat à la mairie d'Ancienne-Lorette pour tenter de déloger Gilles Pageau, qui est présentement le maire d'Ancienne-Lorette. Vous nous aviez demandé de parler d'Ancienne-Lorette et Saint-Augustin, mais Pascal Cévé, on le fait dans On en jase le midi. On parle avec M. Fortin immédiatement après cette courte pause.
On en jase juste avec Jeff Fortin et Pascal Cévé.
À la météo, je vous le rappelle, c'est des averses pour la semaine. Aujourd'hui, c'est 20 mm de pluie qui va tomber. Demain, c'est 40 % de probabilité d'averse avec 13 degrés. Et on est dans ces températures-là pour le reste de la semaine avec de la pluie pour toute la semaine. Pascal Cévé, j'ai vu un chiffre 3 milliards.
Oui, t'as vu le bon chiffre? 3 milliards.
Pour SAQ Click. Dis-moi non.
SAQ Click pourrait coûter jusqu'à 3 milliards de dollars. Là, c'est selon un expert. On dit tout le temps un expert. Qui est-ce? Eh bien, il faut savoir que c'est le professeur en informatique à la retraite, Louis Martin.
Je suis en crise cardiaque présentement.
Qui a été invité comme témoin aujourd'hui, expert à la commission Galland, qui doit faire la lumière justement sur ce qui est désormais connu sous le nom de du fiasco SAQ Click, vous le savez, là, qui en a parlé. Donc, ça pourrait coûter à terme là, 2 à 3 fois plus cher que ce qui avait été jusqu'ici anticipé. On parlait de la règle du pouce. Là, sur la durée de vie du logiciel, le coût initial, ça va représenter entre 10 et 35 % du coût total du projet. Et on dit que c'est à peu près ce que l'industrie indique. Donc, c'est cher, c'est une énorme somme. Et si ça s'avère, c'est une autre problématique. Je dirais, ce n'est que des tuiles qui nous tombent sur la tête avec SAQ.
Allons-y avec quelque chose de positif.
Vladimir Guerrero Jr. leads off the fifth against Logan Gilbert. His 1-1 to Guerrero is whacked to left field. Forget about it! Vladimir Guerrero Jr.'s sixth home run of the postseason makes it 5-0 Toronto.
Victoire des Jays hier, Pascal Cévé. 6-2 sur les Mariners de Seattle.
Quelle erreur! J'ai un beau jacket des Blue Jays. Je ne l'ai même pas mis aujourd'hui.
Tu le mettras demain parce que c'est le 7e match ce soir à Toronto. 20h08. Sean Bieber au monticule pour les Jays. Et si les Jays l'emportent, ils s'en vont en série mondiale contre les Dodgers.
Parfait, mon ami. C'est ça bon. Sera ça.
Canadiens ce soir, 19h30 face aux Sabres de Buffalo. Et 2 matchs au Monday Night Football.
Oui.
19h, Buccaneers-Lions. Sûrement
oui,
le
ça, c'est
match
lui que je veux
de la
écouter.
Soirée.
Oui.
Et 22h, Seahawks de Seattle qui reçoivent les Texans de Houston. Parlant de recevoir, on a avec nous candidat à la mairie d'Ancienne-Lorette, M. Alain Fortin. Comment allez-vous, M. Fortin?
Ça va très bien, et vous?
Ça va super bien. M. Fortin, il faut que je vous pose la question d'entrée de jeu. Pourquoi êtes-vous un candidat si polarisant? Moi, il y a plein de monde que quand j'ai dit « je reçois Alain Fortin », ils m'ont dit « hey, Crémeil, là, lui, il va te parler de poursuites judiciaires, puis il va te parler de taxes à l'agglomération, puis d'argent qu'il veut dans ses poches, puis ça polarise les gens. Pourquoi? »
Ben c'est simple, là. L'ancienne Lorette a été surfacturée pour 70 millions. Un comptable, qu'est-ce que ça fait? Je suis un comptable de profession. C'est ce que ça veut avoir son argent. L'équité fiscale, c'est important. Nous, dans la prochaine année, on va réduire les taxes de 10 %. Là, les gens, ils croient pas. Mais c'est facile. On a une nouvelle entente d'agglomération. On a 3,1 millions de crédits. Ça permet de réduire de 10 % les taxes. On fait juste vous redonner. Excusez-moi, parce que je n'ai pas encore commencé à travailler, puis je suis capable de vous donner une réduction de 10 %.
Et comment vous faites pour convaincre justement vos citoyens, si jamais vous êtes élus, de ça, là, parce que vous dites ils ne croient pas. Comment vous faites pour les convaincre actuellement que c'est possible? Ça semble être votre cheval de bataille, en fait, là, l'argent,
bien,
l'économie.
Bien, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la démocratie directe. C'est quoi de la démocratie directe? Depuis un an, on donnait de la formation aux Lorettains. Ça fait 8 rencontres citoyennes qu'on a. Il y a plus de 100 personnes qui se présentent à nos rencontres. Et on leur a montré comment se défendre contre leur ville. Et c'est pour ça que, dernièrement, on a 162 Lorettains qui vont être en cours du Québec le 17 novembre pour défendre leurs droits pour obtenir le montant qui a été facturé de 42 millions.
Jeff, savais-tu ça que la bisbille était pognée à la Seine-Lorette? Moi, j'entends ça, puis je suis comme surprise que là, il y a plein de citoyens qui veulent poursuivre l'ancienne Lorette.
Je pensais que tout le monde était heureux avec cette diffusion-là, moi, ancienne Lorette. Mais là, on me disait, moi, et c'était dans l'article du Soleil de ce matin, que le remboursement pour le trop perçu, autrement dit, par la Ville de Québec, devait se faire via des infrastructures, donc devait se faire via des dépenses de la Ville et non pas via des chèques aux citoyens, puis que vous seriez justement en appel en justice par rapport à ça. Est-ce que les informations sont bonnes?
L'information, je vous dirais, si vous voulez avoir plus d'informations, n'oubliez pas que le 23 octobre, on va être à l'amphithéâtre de l'ancienne Lorette, un amphithéâtre de 270 places, donc c'est important de vous inscrire. Vous allez avoir toute l'information.
Ouais. Mais est-ce que c'est vrai, ça, que le trop perçu ne peut pas être remis sous forme de chèque?
On va vous expliquer ça simplement. Ce que la loi municipale ne prévoit pas, c'est le code civil qui s'applique. Donc, l'indu doit être remboursé. Donc, la surfacturation, par définition, c'est de la facturation frauduleuse et illégale. Donc, c'est le code civil qui s'applique. Article 1492 du code civil et 1457. Et en plus, l'indu a été déjà statué par un juge en 2001 en cour d'appel. Nous, on va plaider l'indu, mais on va vouloir avoir jugement. Jugement, ça veut dire que le délai de prescription n'est pas de 30 jours, n'est pas de 3 ans, mais de 10 ans. C'est que si on gagne aux élections, il faut penser qu'il va y avoir quelque chose, puis on va gagner le procès le 17 novembre.
Ce qu'il faut OK, fait qu'il faut vous gagner aux élections et gagner le procès pour pouvoir remettre des chèques.
Non, ce qu'il faut comprendre, que si on ne gagne pas aux élections, les 162 Lorettins seront remboursés. Mais on ne pourra pas aller plus loin si on n'a pas le pouvoir de la ville.
Est-ce que vous avez vraiment besoin, par exemple, d'être maire de l'ancienne Lorette pour faire ce genre de procédure-là? Parce que j'ai l'impression que non, puis ça semble être vraiment la proposition principale de votre parti.
Non, c'est pas la proposition principale. Une des propositions, c'est une réduction de 10 % du compte de taxes. La deuxième poursuite, parce qu'il y a eu deux poursuites, une première poursuite de 42 millions, où l'argent a été pratiquement tout dépensé. Et il y a une deuxième poursuite, elle, c'est 28 millions. Ça, ce qu'on on va faire, c'est que toutes les Lorettins vont être remboursés pour cette poursuite-là. L'argent n'est pas encore rentré. Elle est encore dans les coffres de la Ville de Québec. Ce n'est pas encore jugé. Donc, ça, c'est 4 000 $L'autre chose qu'on veut faire, c'est vivre en ville. Je ne sais pas si vous savez le projet Vivre en ville. C'est qu'on on veut pas avoir, toutes les Lorettins, une autoroute qui passe à travers la ville. OK? Puis une des façons de régler définitivement le projet. Dans le temps d'Émile Loranger, il y avait le projet Vivre en ville, mais malheureusement, en 2020, il est mort, puis il n'a pas pu réaliser son projet. C'est quoi Vivre en ville? C'est que l'espace qu'il y a entre l'autoroute, il y a des terrains qui sont des terrains de bonne valeur, puis le MTQ voulait les donner gratuitement pour pouvoir construire des logements abordables, des logements pour les Lorettins, les gens qui habitent en l'ancienne Lorette, qui se fait longtemps qu'ils sont chez nous.
Et là, vous voulez développer ceci?
On veut développer, puis ça va permettre deux choses, de donner les logements abordables et de créer de la richesse, donc des nouvelles taxations pour garder le compte de taxes, le baisser. L'objectif à l'ancienne Lorette, si on se rappelle, en 2010, le compte de taxes a monté de 33 %. Et la plus belle preuve, je voulais vous la montrer, là, mais tu sais, c'est sûr que les téléspectateurs ne la verront pas.
Sur Twitch, on voit. Twitch.tv.
L'objectif, c'est pour bien comprendre. Vous avez votre vieille une du Journal de Québec. Hausse de 33 % avec Émile Loranger qui a le doigt dans les ailes.
Mais moi, j'étais là.
Vous avez gardé ça?
Ben oui, parce que moi, j'étais là. J'ai défendu les Lorettins.
J'adore.
Non, mais j'ai défendu le Lorettin à ce moment-là. Ah oui. C'est moi qui l'avais poursuivi en inhabilité parce que je croyais qu'Émile, OK, nous passait une petite passe.
Fait que là, ça fait des années que vous vous battez pour avoir de l'argent, là.
Ben oui, je suis pas comme... Tu sais, le premier arrivé, là, je fais...
Ouais.
Je fais comme... Tu sais, un opportuniste. Je suis pas un opportuniste. Ça fait depuis que Émile a décrété une augmentation de 33 et Émile m'avait convaincu, je l'ai poursuivi en justice.
Ouais. Avez-vous gagné?
Ben non, on s'est donné une poignée de main.
Ah, OK, vous avez réglé ça à l'amiable.
C'est ce qu'il m'avait dit. Inquiète-toi pas, Alain, ton chèque va arriver quand on aura gagné avec Québec.
On a un texto. Pourquoi le MTQ donnerait des terrains payés par nos taxes à la ville de l'ancienne Lorette?
Vous trouvez pas que les Lorettins ont été assez abusés? 24 millions de frais d'avocat, ça commence à être le temps que le Québec nous dédommage.
Mais ces frais d'avocat-là, c'est dû à vos contestations à vous ou les contestations avec la Ville de Québec?
Avec la Ville de Québec, pour obtenir... On a gagné, puis ça nous a coûté 24 millions depuis le début. C'est pratiquement un compte de taxes juste en frais d'avocat.
Fait que là, vous dites le MTQ nous doit ça parce que la Ville de Québec...
Le gouvernement du Québec nous doit ça. Puis en plus de ça, on a besoin de logements criants à Québec. Puis donc, c'est normal qu'ils nous... Tu sais, je veux dire, c'est des terrains... des terrains qui sont inexploités. On ne veut pas qu'une autoroute passe là. Puis une des seules façons d'éviter ça, des loyers pris, des loyers abordables.
Rapidement, en terminant, comment ça se passe à l'ancienne Lorette sur le terrain? Parce que là, moi, il y a un petit oiseau qui me dit que vous étiez en pleine campagne électorale contre votre ancien beau-fils, il sortait avec votre fille, puis là, est-ce que l'ancienne Lorette, c'est quoi l'écosystème de l'ancienne Lorette, là, en ce moment, là, aux élections?
Bien, il faut, tu sais, je ris parce que Charles Guérard, qui est un des conseillers, a travaillé pour moi des années de temps dans mes entreprises. La famille Pageau, ma fille a sorti avec un des enfants de la famille Pageau. C'est sûr que là, ils ne sont pas ensemble parce que ça ne fonctionne pas. Mais on se connaît tous. C'est un petit village, Ancienne Lorette.
C'est le Saguenay, coudonc, Ancienne Lorette?
Pratiquement.
C'est un voisin contre.
C'est à peu près ça, c'est le Saguenay. Mais une chose est certaine, ce qui serait le fun, c'est en famille, là, on devrait ici, là, la prochaine fois, là, si vous voulez faire quelque chose d'intéressant pour tous les Lorettins, moi, je demande à Gaétan Pageau. Ben pourquoi pas faire un débat?
D'organiser un débat.
Oui, un débat, là, tu sais, sympathique, là, pas, tu sais, juste pour savoir, tu sais, une chose simple, voulez-vous avoir une diminution de taxes de 10 % Tu sais, juste cette question-là.
On a M. Pageau.
Ça, c'est ce que vous proposez. C'est ça.
On a M. Pageau devant l'entrevue. On va lui poser la question avec plaisir. C'est déjà tout pour l'émission. On en jase sur les ondes de Boulevard 101. Comme à l'habitude, le retour de Gravel qui suit de 14h à 18h avec Denis, Véro et Audrey. Par la suite, Marceau le soir. On est lundi. C'est avec Maître Marc Bellemare. Le podcast Classe à part avec Sylvain Lancause ce soir, 19h. Puis nous, ben, on se reparle à midi demain.
Sans faute, Jeff.
Après Marceau dans le matin, de 6 à 10. Puis le point max de 10h à midi. Quelle belle programmation quand même on a sur les ondes de Boulevard.
Hein? On va être au rendez-vous, mon ami.
Oh yes! À demain, les amis. Restez à l'écoute de Boulevard 101. Merci pour vos interactions. 418-971-101. Monsieur Fortin, merci. Ce fut un réel plaisir.
Un gros merci.
Excellent. Merci beaucoup. Bonne fin de journée sur les ondes de Boulevard 101.
Jusqu'à 14h.